Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Et oui, bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, ravi d'être avec vous hein, pour une nouvelle émission de Mon Paris Sport en grosse configuration mondiale, 19h, 20h30 avec tous ceux qui nous accompagnent pendant cette belle période de Coupe du Monde, hein, ce beau mois de novembre et décembre que l'on vit à travers notamment cette Coupe du Monde et puis l'équipe de France. On va saluer donc notre ami El Hadji. Comment ça va El Hadji, toi qui nous commande tous les matchs, ça va? La voix va bien, la gorge va bien?
Ça va, la voix va bien, la gorge ça va aussi.
Ouais. T'es sous pression encore, hein, parce que c'est pas fini hein, pour nous. Hein.
C'est pas fini encore.
On va aller au bout. Hein.
J'espère y aller au bout.
Hein, bon, de toute façon, on sera au bout, j'allais dire physiquement, parce que bon, l'équipe de France, même si elle perd, elle devra jouer une troisième place. Enfin, nous, c'est la victoire qu'on veut. Hein. Voilà, c'est chanter la Marseillaise et aller faire la fête dimanche soir.
C'est ça.
Hein, voilà, très bien. Et puis il est avec nous aussi pendant toute cette période du mondial, c'est notre ami Eric. Bonsoir Eric.
Bonsoir à tous et à toutes.
Ça va bien, Pentor?
Très, très bien.
C'est un beau mondial, hein. On se régale.
Je suis content, moi je me régale.
Ouais, hein. Et puis bah, notre ami Stéphane aussi, qu'on va saluer, il nous accompagne à la télé, à la radio, avec les émissions spéciales.
Sur le site web.
Ouais, sur le site web.
Hein.
Ça va Stéphane, on se régale, quel mondial. Hein.
Tout à fait, c'est superbe. Des surprises, des confirmations, des Sud-Américains, des Africains, des Croates qui nous remettent ça, qui sont incroyables. Et puis la France, alors qu'il n'y a que demander de plus.
Et,
que
demander et puis, plus. On est loin de tout ce qu'on pouvait entendre il y a donc un mois, hein, où il fallait boycotter la Coupe du Monde, ça n'allait pas être bien.
Ah ouais, tout à fait. Bah, les Français, ils ont eu le ils ont vaincu le boycott. De toute façon, c'est difficile aujourd'hui. Je pense que, à mon avis, le France-Maroc, il va faire un sacré...
17 millions, il y avait samedi soir.
Ouais, avec des pics à 20 millions.
Ouais, ouais.
Ils vont cartonner. Et puis même le match, je crois que c'est Maroc-Portugal, c'est 7 millions. C'est la plus grande audience pour un match hors équipe de France, un match de Coupe du Monde hors équipe de France. Alors, c'est
Allez, on va saluer notre ami Valentin. Ça va, Valentin, toi?
Ça va, et toi, Philippe, ça va?
En pleine forme, entre le basket, le foot, tout ça.
Il y a beaucoup de sport en ce moment. Il y a la Coupe du Monde, mais il y a du volley, du basket à côté.
Alors, effectivement, hein, ça sera un gros menu mondial, naturellement. On reviendra aussi sur les prix nationaux du fair play qui ont eu lieu le 1er décembre. C'était au lendemain de France-Tunisie. On a quelques interviews. On vous les diffusera. Et puis, en fin d'émission, on n'oubliera pas nos clubs de l'arrondissement, le Paris Atlético, le Paris Basket et le Paris Volley. Hein,
oui, pas de souci, on reviendra sur toute l'actualité sportive.
Et puis on aura Noël Tosi aussi au téléphone
tout à
l'heure.
Fait.
Notre expert.
Ouais, super intéressante l'expertise de Noël Tosi qui nous donnera, je pense, son avis. Il reparlera peut-être, il en a beaucoup parlé déjà samedi sur le cas Cristiano Ronaldo, quand même, c'est quand même un peu triste. C'est vrai qu'on a vu les larmes de Neymar, c'était ennuyeux, mais Cristiano Ronaldo, on a quand même un petit peu le sentiment qu'il y a eu une sorte de gâchis quand même sur cette Coupe du Monde, quoi, avec lui. Donc ça, Noël en parlera certainement tout à l'heure.
Bah, de toute façon, on va revenir sur toute cette semaine de Coupe du Monde avec Noël. Donc on fera un petit peu déjà un pré-bilan de ce mondial. Donc Eric, simplement pour l'équipe de France, il y a une demi-finale qui se présente contre le Maroc.
Ouais, c'est franchement, moi, je suis vraiment, vraiment pressé de voir cette demi-finale parce que déjà, je voudrais envoyer un gros, gros message à toute la communauté marocaine parce que réellement, ils font un bon mondial. Et puis, être dans leur position, c'est quelque chose qui fait à la fois vibrer. Je pense qu'ils le vivent vraiment très, très bien. Ils sont dans un côté qui va là. Et puis, De match en match, ils n'ont rien à perdre. C'est-à-dire que là, ils vont jouer pour gagner et ils ont peut-être une chance. Hein. Il faut pas sur un match, tout est possible. Et on a vu, ils éliminent quand même l'Espagne.
La Belgique,
le Portugal. Et ils sont dans la poule de la Croatie et ils finissent premier de groupe. Mmh. Donc faut loin de sous-estimer. Mais de toute façon, même si ça reste, ils ont gagné. S'ils continuent, le côté continue, donc ça va être quelque chose de beau pour eux. Et puis après, de l'autre côté, on a l'équipe de France qui est où on avait tous peur. On en avait discuté en début de Coupe du Monde, en avant Coupe du Monde, avec les blessés, on n'avait pas toute l'équipe type. Et il y a un groupe qui s'est fait. Moi, j'aime bien tirer le chapeau à ce qu'il faut. Je trouve que après l'Euro où on s'était dit est-ce que notre sélectionneur a pas perdu la main, est-ce qu'il a toujours le côté sur son groupe, etc., etc. On voit qu'il a refait un groupe avec de la jeunesse. Ça marche bien. Il y a un groupe qui vit bien. Je sais que ce mot fait toujours rire, mais je trouve que le groupe vit bien et ça joue bien. Et il y a un côté, quand on est en difficulté, on arrive à se dire qu'on ne panique pas, qu'on continue. Donc on a des armes, on a des belles armes sur le terrain. Et ça va être, je pense, un beau match. Et donc on est impatients, je pense.
Noël Tosi, bonsoir.
Bonsoir Philippe, je ne sais pas si vous m'entendez bien.
Parfaitement bien, ça va Noël? Alors, on va effectivement revenir sur toute la semaine de compétition depuis la semaine dernière. Alors c'est vrai que la semaine dernière, quand on s'était quitté, Noël, c'était pendant le match entre le Brésil et la Corée. Le Brésil avait battu la Corée 4-1 avant de se faire éliminer en quart de finale par la Croatie, un partout après prolongation, battu donc au tir au but 4-2. C'est encore une génération qui va passer à côté quelque chose?
Non, parce qu'ils sont encore jeunes. Je pense qu'ils vont pouvoir être performants. Neymar ne sera pas si vieux dans 4 ans. Et tous les jeunes qui sont Martinelli, etc., ils auront 4 ans de plus, ils seront plus aguerris. Et puis, ça se passera plus dans un état d'Amérique, donc ils seront moins dépaysés. Voilà.
Ouais. Comment on peut expliquer l'élimination du Brésil? Ils ne sont pas vus trop beaux à un moment, Noël?
On a remarqué que toutes les équipes mettaient des cartons contre d'autres équipes. Tout de suite après, ils pensaient que c'était arrivé. Il y a un relâchement, le Portugal, le Brésil, l'Angleterre qui a fait un carton contre l'Iran, etc. Et toutes ces équipes-là se sont un petit peu relâchées. Ils sont peut-être vus trop beaux, comme tu dis. Ils sont peut-être vus... déjà gagné la Coupe du Monde et puis c'est pas les équipes qu'on croit qui vont peut-être aller au bout. Je te signale que dans un article qui date de plus de 15 jours à l'issue des matchs de qualification, j'avais annoncé que le Maroc et la Croatie seraient dans le carré gagnant.
Ah.
Et j'étais pas sûr pour la France.
Oui, d'accord.
Donc, encore moins pour le contre l'Arabie Saoudite.
Ouais, ouais.
Maintenant, la Croatie, c'est autre chose en 2018. Hein.
Oui, oui. Alors, effectivement, on va quand même rappeler que la Croatie, c'est la seule équipe qui s'est imposée en huitième en ayant fini deuxième de sa poule. Sinon, tous les matchs des huitièmes se sont soldés par une victoire donc des premiers de poule.
Oui, mais ça, c'est une coïncidence.
Ouais. Mmh.
On sait que le Maroc a déjà rencontré la Croatie, ce serait magnifique qu'il y ait Maroc-Croatie en finale. Hein.
C'est quoi la force de cette équipe croate? Parce que c'est vrai qu'on a le sentiment qu'elle joue par bribes, par intermittent. C'est vrai qu'elle arrive très souvent au tir au but. Je crois qu'elle a un petit peu comme la Coupe du Monde en 2018, où je crois qu'elle était arrivée en finale en ayant joué, en ayant gagné deux matchs au tir au but et un à la prolongation. Souvent, ce sont des épreuves qui lui réussissent.
Oui, et puis il y a quelque chose de très important. Ouais. Cette équipe, c'est un peu comme l'équipe du Maroc, c'est un gros collectif.
Oui.
C'est une équipe. Voilà, c'est une équipe dans les individualités. De l'autre côté, on a l'Argentine avec Messi, la France avec Mbappé. Mais dans le cas de la Croatie, c'est une machine de guerre. Hein. C'est une machine de guerre. On l'a vu, c'est vraiment, ils se sont pas laissés faire dans la confrontation. Et même, je trouve qu'ils ont été, par moments, ils ont rivalisé largement avec cette équipe brésilienne. Ils l'ont même fait douter dès le départ.
Ouais. Donc, on va reparler de ces Croaties. Un France-Croatie, un remake de 2018, ça peut être possible ?
C'est possible aussi. Il faudra passer l'écueil du Maroc.
Oui, on va
tout
reparler.
Tout le monde dit, le Maroc.
On va reparler. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, la Croatie ? C'est vrai qu'Eric, on avait souvent parlé, avait dit qu'il faut se méfier, et Stéphane aussi, de la Croatie.
Ouais, moi, je suis d'accord avec Noël Tosi. Le côté de la Croatie, c'est, si vous regardez, pareil, les matchs et les stats... Au niveau de l'attaque, c'est pas une armada.
Non,
pas au niveau des joueurs, mais au niveau des statistiques. C'est-à-dire que quand on regarde les matchs, ils tirent beaucoup, mais ils cadrent peu. Donc réellement, c'est pas l'armada offensif. Par contre, comme le dit Noël Tosi, c'est pour moi un bloc équipe. C'est une équipe qui est soudée. C'est une équipe qui a l'expérience. Mais qui a aussi amené des jeunes et qui les a fait se fondre dans le collectif des anciens avec ce côté un peu rugueux, un peu germanique, du côté bloc équipe avec une bonne défense. Ils prennent pas beaucoup de buts. Et puis leur but, effectivement, c'est au moins d'aller aux prolongations pour se dire que voilà, sur un contre, etc., parce que c'est pas l'armada offensive, ou en tout cas aller au pénalty. Donc c'est à se méfier, c'est-à-dire que c'est pas l'équipe où on se dit voilà, ils vont dominer tout le monde, ils vont écraser le match, mais à se méfier.
Oui, c'est vrai que c'est sa spécialité quand même, cette équipe croate, de faire durer le plaisir et d'arriver au tir au but, hein, Noël.
Oui, non, mais c'est vraiment, c'est une machine de guerre, hein.
Oui.
Et ils sont encore plus forts qu'en 2018. Attention, attention à la Croatie.
Ouais.
Attention à la Croatie, déjà, contre l'Argentine de 1, moi j'en fais mes favoris.
Ah bon ?
Et en finale, on ne sait jamais. Hein.
D'accord. Eladji, cette équipe croate, elle te plaît, toi ?
Non. Moi, me plaît beaucoup cette équipe croate. Hein. Depuis le début de cette Coupe du Monde, elle montre que c'est une équipe solide, très bon dans le jeu. On l'a vu notamment contre le Brésil. Franchement, ils ont rivalisé avec le jeu du Brésil. Le Brésil avait du mal à jouer, notamment Neymar aussi, qui avait du mal à percuter vraiment. Et voilà, après, c'est une équipe, on voit bien. Comme on dit souvent, c'est pas facile de les battre, mais... C'est plus difficile de les battre, en gros l'équipe de la Croatie n'est pas difficile à perdre contre cette équipe là c'est pas facile, mais je sais même plus carrément, je me perds dans mes trucs,
ouais.
Mais il y avait un petit truc,
je comprends ce qu'il veut dire, oui. Il veut dire que c'est une équipe qui est chiante à jouer, on sait pas comment la jouer. Elle a toujours des ressources, quelle que soit l'équipe en face, que ça joue d'une certaine manière, qu'avec n'importe quelle gestion tactique, 4-4-2, 3-5-2, 4-3-3, ils sont toujours adaptés à ce qui se passe en face. Et c'est l'équipe la plus chiante à jouer avec le Maroc.
Ouais.
Voilà.
Mais moi, je pense que c'est
pas possible.
Noël, c'est peut-être un peu aussi... Le profil un peu des quatre équipes qu'on retrouve là, quand même. Quand on dit le groupe vit bien, il y a un vrai collectif, même pour l'équipe de France, c'est ça, hein, s'ils ont battu les Anglais, c'est aussi par la force du groupe, du collectif. Les Croates, je pense que c'est pareil. L'Argentine, contrairement, moi je suis un fervent... Si j'avais amusé une pièce aujourd'hui, le champion du monde, je dirais que ce sera l'Argentine. Ouais. J'adore cette équipe, mais je pense que c'est pareil pour l'avoir vu jouer. Il n'y a pas que Messi, il y a aussi des joueurs qui courent beaucoup autour de lui. Il y a un gardien énorme, d'ailleurs toutes les équipes. Loris s'est mis un peu au niveau contre il a rattrapé un petit peu peut-être son retard contre les Anglais. Sinon, toutes les équipes ont un super bon gardien. Je pense que c'est quatre équipes qui se ressemblent pas mal. Et puis donc ça va être, je pense, effectivement très très ouvert. Les deux demi-finales vont être très 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 ouvertes. C'est vrai qu'on avait vu les Croates dès le début. Noël, je sais que toi tu les avais vus. Moi aussi, je les avais mis parmi mes favoris assez rapidement, même dès le deuxième match de poule, je crois. J'adorais cette équipe, comme l'Argentine que j'avais défendue bec et ongle contre.
Pourtant, parfois cette équipe, elle est un petit peu laborieuse des fois. Hein.
C'est ce qu'on dit pour avoir regardé les matchs, les derniers matchs, en tout cas contre les Pays-Bas notamment. Mmh. Moi, personnellement, je ne pense pas qu'il y a que Lionel Messi, quoi, pas plus que dans d'autres équipes où on voit certains joueurs. Donc, je pense que ça va être super compliqué. Mais c'est vrai que là, je pense que toutes les finales sont possiblement envisageables. C'est vrai que bravo aux Marocains d'être arrivés là, mais c'est vrai que si j'avais à Paris, je pense quand même que des quatre équipes, celles qui sont les moins, qui a le moins de chances d'aller en finale sur les quatre, c'est quand même le Maroc. Mais juste derrière, les trois autres, c'est quasiment du kiff-kiff, et le Maroc, c'est peut-être un petit peu en dessous, quoi.
Oui. Alors, justement, Noël, l'Argentine, hein, puisqu'on a vu un match que l'Argentine semblait avoir bien maîtrisé pendant 80 minutes, quelques frayeurs donc pendant 10 minutes, puisque ça a été donc un retour des Pays-Bas de partout après prolongation, et malgré tout, donc l'Argentine qui s'impose au tir au but, 4-3, j'ai envie de dire tant mieux pour le foot.
Oui. Et puis il faut rendre à César ce qui est à César. Stéphane est un fervent de l'Argentine et il nous avait toujours dit depuis le début, même après le match contre l'Arabie Saoudite, que l'Argentine serait dans le carré gagnant. Et il avait raison. Hein, il avait raison. Il y a des joueurs remarquables. Ils ont, comme nous en France, ils ont la perle rare qui est Messi. Nous, on a Mbappé. La différence, est-ce que la différence va se faire avec les joueurs de talent? Je pense aussi, mais. Stéphane avait l'œil. Il a eu l'œil dès le début.
Oui. Non mais en tout objectif, quand on regarde un match de foot, les Pays-Bas, ils n'ont pas montré grand-chose sur le match quand même. Noël, sauf dans les 10 dernières minutes. Non. C'est vrai qu'on ne s'est pas régalé. C'est pour ça que pour le foot, on préfère quand même que ce soit l'Argentine quand même.
C'est sûr. Ils ont tiré sur l'ensemble du match. Ils ont tiré 5 fois au but.
Ouais, 5 fois au but. Bon, il y a eu 10 grosses minutes
avec prolongation.
Ouais. Donc, c'est mieux quand même pour nous.
Mais bien sûr, parce que franchement...
Je pense en rééquilibrant l'équipe, en enlevant certains joueurs techniques et en mettant des joueurs qui vont plus vers l'avant, l'entraîneur de l'équipe argentine...
On vous a perdu, Noël. On vous a perdu, attention, on vous perd là.
Il a trouvé... Oui, alors attendez, on va essayer de se retrouver.
On vous perd, c'est bien, bougez plus maintenant.
Ne pose pas ta jambe gauche, garde-la l'air.
Voilà.
Avec le bras droit aussi.
Voilà, hein. C'est ok. Bon. Donc on va demander à Valentin donc cette demi-finale qui va opposer la Croatie à l'Argentine, alors que apparemment Noël Tosi
il
s'est déconnecté, oui. Cette demi-finale, l'Argentine qu'on a vu donc battre les Pays-Bas en quart de finale, la Croatie qu'on a vu aussi donc s'imposer face au Brésil, Argentine Croatie, c'est du 50-50 pour toi?
En vrai oui, parce que l'Argentine on les voyait déjà en demi-finale à 2-0, mais ils se sont laissés un peu emporter sur le cours du match. Ils ont joué à la baballe et ils se sont fait rattraper par une équipe des Pays-Bas qui n'avait rien montré pendant je pense 60 bonnes minutes.
80 minutes.
Ouais, 80 minutes. Ouais, 80 minutes. Il y avait quand même dans les 20-30 dernières minutes, ils ont quand même accéléré le jeu et essayé de faire des changements. Et donc il y a quand même quelque chose avec l'Argentine. Moi je trouve qu'il y a quand même un plafond qui est très visible avec l'équipe d'Argentine. Je sais pas pourquoi, je trouve que s'il y a pas Messi, ça devient très compliqué. C'est compliqué. Et pour la Croatie, ils nous font le même coup qu'il y a 4 ans. On emmène l'équipe jusqu'au tir au but et après on voit ce qui se passe. Et ils sont forts dans ça, ils sont solides dans l'impact. Et puis on a l'impression que Modric il est cramé au bout de 40 minutes, mais en fait il est toujours vivant jusqu'à la 120e minute et il est là pour te mettre son penalty. Donc c'est du 50-50, mais je sais pas pourquoi je vois encore la Croatie faire le coup en fait.
Ah bon?
Encore, ouais.
Toi, tu crois un remake
Même s'il y a quand même la fraîcheur physique qui va rentrer en jeu, ils ont fait 2 prolongations, 2 tirs au but, donc ça va être très compliqué.
C'est leur spécialité. En 2018, ils ont gagné 2 matchs au tir au but et un match par prolongation avant d'arriver en finale.
C'est ça. C'est même limite fatigant qu'ils font ça en fait. Parce qu'on s'y attend déjà, mais pourtant ça marche. On sait pas comment marche, mais ça marche. Donc voilà.
Moi, que dire de plus? Moi, je pense que l'Argentine va passer, le talent va passer. Et puis, en fait, toutes les équipes. Moi, ça m'agace, mais bon, c'est vrai que ça m'agace. Mais depuis le début de la Coupe du Monde, sans Messi et rien, c'est vrai qu'elle s'est peut-être construite grâce à Messi, notamment contre. Je sais plus, c'est le Mexique où il marque. Il débloque le match et tout. Il a souvent débloqué le match. Mais une grande équipe, c'est ça. La Croatie, depuis le début de la Coupe du Monde, du monde, la Croatie sans Luka Modric, je suis pas sûr que ça soit la même Croatie, quoi.
Oui, c'est pas la même Croatie, là, c'est sûr, Stéphane, mais ça reste quand même une très bonne Croatie, parce que Kovacic, il est au top, Brozovic, il est au top. Non, faut dire les choses, Perisic, oui. Perisic. Il est au top, Perisic.
Au-delà de ça.
Faut pas s'emballer. Il est bon, mais je défendrai mon truc. L'Argentine gagner la Coupe du Monde, contre la France. Je vois une finale France-Argentine avec l'Argentine qui gagne.
Et tu seras pour l'Argentine.
Non, mais qui gagne. Et je serais moins déçu. Sincèrement, je serais moins déçu. Je serais à fond pour la France. Mais je serais un peu moins déçu parce que ma deuxième équipe, derrière, quand on a la chance d'avoir sa deuxième équipe sur les 32 qui étaient qualifiés, qu'on voyait aller loin, aller en finale et éventuellement gagner, on est content. Je serais bien sûr pour la France et très déçu si nous on gagne pas. Mais moi j'aime bien, j'adore Molina, j'adore De Paul, j'adore Acuna, j'adore Enzo Fernandez.
Ils sont suspendus en plus.
McAllister, non, il n'y a aucun suspendu. Non,
si, je crois qu'il y avait Acuna et.
Demi-finale, Acuna.
Montinello.
Acuna, il doit être suspendu.
Acuna et Montiel, je crois. Mais,
Montiel, c'est un remplaçant, il est rentré, il n'a pas été super. Molina, c'est un mec qui est énorme. De Paul aussi. Alors, De Paul, j'espère que ça ira physiquement. Il faut savoir que, quand même, dans le dernier quart d'heure ou des 10 dernières minutes contre les Pays-Bas, quand ils prennent la marée, il y a Acuna, Molina et. Le troisième, j'en ai parlé. Non, il y a Romero derrière. Mais en tout cas, il y a Acuna et Molina qui sont tous les deux sortis.
De Paul,
je crois que c'était un problème physique. Acuna, je crois qu'il avait déjà eu un jaune. Il avait peur qu'il reprenne encore un jaune. Et puis Molina, on se demande, on ne sait pas pourquoi. Mais en tout cas, la sortie de ces trois joueurs a complètement transformé l'équipe d'Argentine.
Après, Stéphane, moi, pour aller dans le côté de la G et d'aller un petit peu moins dans le tien... Après, on n'a pas la science infuse et on verra. Mais en tout cas, quand tu regardes, ce match-là, il va être décisif pour voir s'ils ont les capacités de gagner la Coupe du Monde cette année. Parce que quand tu regardes, en fait, en huitième, ils ne font pas un grand match contre l'Australie. Il ne faut pas rêver. Et c'est que l'Australie. Contre les pays... Contre ensuite...
Je ne comprends pas. La France,
tu... Non, l'Argentine.
L'Argentine. L'Australie, ils n'ont pas joué l'Australie.
Ils jouent l'Australie en 8e.
Ils ont gagné
2-1. En 8e, ils jouent l'Australie. Ils gagnent 2-1, ils ne font pas un grand match, réellement. Et c'est que l'Australie. Il y a les Pays-Bas.
Ils surclassent les Pays-Bas.
Non, mais attends, Stéphane, le côté surclasse. Moi, je veux bien le côté. Oui, mais Stéphane, le côté surclasse.
Attends, Stéphane, laisse-le finir parce que moi aussi, je reviens juste après.
Il y a un truc qui est important parce que moi, surclasse, c'est que tu finis à 5-1 et que ça. Là, surclasse, je suis désolé, ils vont au tir au but. Donc, Stéphane, tu ne peux pas me dire que quand tu vas au tir au but, tu surclasses une équipe. Peut-être qu'ils les ont surclassés pendant 80 minutes, mais 80 minutes, c'est comme aux échecs. C'est souffler n'est pas joué.
Non, pas 80. Pas 80.
70, allez, si tu veux.
120 moins 10. Ouais, donc 110.
Allez, si tu veux. Mais c'est souffler n'est pas joué. Une équipe qui est dominée, elle ne t'emmène pas au tir au but. Je suis désolé. Ça, c'est parce que tu n'as pas été bon au bout d'un moment. Et voilà. Donc, ils n'ont pas fait un grand match pour moi. Ils ont fait un meilleur match contre que les Pays-Bas, d'accord ? Mais c'était que les Pays-Bas. Les Pays-Bas, je te le dis, sur 120 minutes, ils tirent 5 fois au but, ils mettent 2 buts.
Non, mais
5 fois au but, ils tirent 2 buts. Alors par contre, ce que je veux te dire, c'est qu'ils ont deux équipes, la 8e et le quart, où ils n'ont pas joué contre des grandes équipes pour moi, sur le match en tout cas. Parce que les Pays-Bas sont une grande équipe, l'Australie un peu moins. Mais sur le match, en tout cas, ils n'ont pas joué des grandes équipes. Donc là, ils vont jouer la Croatie qui, on l'a vu avant... Eux, par contre, sont là. C'est pas du grandiose, c'est pas beau, etc., etc., peut-être, mais ils sont là. Donc, c'est là qu'on va le voir. C'est-à-dire que là, moi, je suis d'accord avec Valentin. Pour moi, on n'est pas sur le papier dans l'équipe. Si, ou alors, tu vas dans la rue, tout le monde te dit Argentine-Croatie. Ouais, mais si l'Argentine, 70-30, 80-20, ils vont te dire. C'est ça le pourcentage. Moi, je te dis, c'est du 50-50. Mmh. C'est du 50-50 parce que c'est pas une grande Argentine. Parce que c'est quand même une Argentine qui compte que sur Messi. Beaucoup, en tout cas pas beaucoup, pas que, ça serait réducteur de dire ça, mais beaucoup. Et donc, la Croatie vis-à-vis de ça va être un gros impact. Si tu passes la Croatie, là je pense qu'effectivement, t'as un impact. Mais pour moi, c'est pas,
mais attends,
c'est
pas le côté... Qu'on soit bien d'accord, je dis aussi que cette demi-finale, ça va être du 50-50 entre la Croatie et l'Argentine. Mais peut-être ça fera 50,1% pour l'Argentine. Moi, je pense que l'Argentine peut passer. Et ça m'agace qu'on sous-estime l'équipe d'Argentine.
Ah non, Stéphane.
Et je pense qu'ils peuvent passer. Stéphane. Je sais tout. Je dis Stéphane. Pas du tout. Moi, je dis pas que c'est du 80-20.
Stéphane, même moi, je pense que l'Argentine peut passer. Tout le monde
peut passer en vue de ce qu'on a vu avec le Maroc. Tout le monde peut passer. Non mais on t'enlève pas ça, Stéphane. Tu peux très bien avoir ton avis et dire je pense que l'Argentine vont battre le truc et vont aller jusqu'au bout, ils vont gagner la Coupe du Monde. C'est ton avis, tu as le droit, comme tu l'as défendu depuis le début de cette Coupe du Monde. Mais on te met des trucs, des preuves en fait sur la table, des trucs qu'on a vu. On a vu contre l'Australie, 2-1 à la fin, il y a le gardien sur la parade, sinon ça part en 2-2.
Totalement.
Et contre une équipe de l'Australie, parce que Stéphane, parce que Stéphane, je tenais à te dire, Stéphane, faut que tu t'en rappelles, quand on a commenté ce match-là, j'ai commenté ce match-là avec Abou ici, quand on a battu l'Australie 4-1, à la fin tu disais, ce n'est que l'Australie. C'est ce que tu disais. Ce n'est que l'Australie. Ouais, donc maintenant que ce n'est que l'Australie, la France leur met 4-1, c'est normal, l'Argentine doit en faire autant, puisque tu les vois gagnant contre la France ou contre n'importe qui. Donc normalement ils doivent en faire autant. 2-1 jusqu'à se faire peur. Pourtant l'Australie même n'a même pas fait un bon match. Maintenant ils jouent contre le Pays-Bas. Pays-Bas, cette Coupe du Monde, ça a été coussi coussa tous les matchs. Exactement. On a vu ce match-là. Ils ont joué contre le truc méconnaissable jusqu'à la 80e minute. Et c'est pour ça que je dis jusqu'à la 80e minute, parce que Van Gaal, et c'est là que j'ai poussé mon coup de gueule, parce que Van Gaal a fait rentrer Weghorst et Luc de Jong. Luc de Jong, à la 75e, ça n'a pas beaucoup changé. Mais à la 80e minute, c'est à ce moment-là qu'il fait rentrer Weghorst. À la 75e minute, les Pays-Bas ont zéro tir cadré, ont un seul tir et il n'est pas cadré. Et à partir de ce moment-là, comment t'attends jusqu'à la 80e minute pour changer ton attaque? C'est pas logique. À la 80e minute, c'est là qu'il fait rentrer Weghorst. Weghorst a eu deux occasions. Deux occasions, c'est deux buts. Ce que Memphis n'a pas réussi à avoir, et Gakpo aussi, qui a été dégueulasse pendant tout le match. Les deux, ils ont été dégueulasses pendant tout le match. Donc, ils se sont réveillés même pas 10 minutes. Ils ont mis un bon attaquant devant. La défense argentine a séché dessus.
Ouais, c'était fini.
Voilà. En 10 minutes, ils ont fait 2-2. Ouais. Et ils auront fait tout ce match-là. Le coach, je pense même, il aurait compris un peu avant. Oui. Et à la 60e minute, il fait rentrer Weghorst et Luc de Jong. Je pense que l'Argentine ne passe
pas. Mais ce qui est fou, elle a dit, c'est un truc qui est vrai, c'est que sur tout le match jusqu'avant les prolongations, tu te dis, effectivement, comme le dit Stéphane, il n'y a pas match. C'est-à-dire qu'il y a une équipe et en face, il n'y a rien.
Il n'y a rien.
Et par contre, après, quand tu passes les prolongations, c'est là que, par contre, tu te dis, l'Argentine, ils se disent, j'espère qu'on va aller au tir au but, parce que, par contre, là, ce n'est plus le même match.
C'est ça.
C'est-à-dire que ce n'est plus la même domination.
Ils attendaient. On a vu,
la deuxième prolongation, ils ont quand même failli marquer.
La première.
Mais ouais, bon, je réponds juste par rapport à ça, que moi, ce que j'ai vu en suivant cette équipe d'Argentine, c'est que j'ai vu une équipe, comme le disait le laissant entendre Noël tout à l'heure, qui est montée en régime. C'est-à-dire que ça me fait penser cette équipe qui s'est bananée au premier match, qui a fait des changements, des réajustements, qui est montée en régime. Et je réponds simplement, je ne suis pas entraîneur, donc je ne suis pas aussi qualifié que peut l'être Noël ou d'autres. Je dis juste que ce dont tu parles, effectivement, pourquoi il l'a fait si tôt, mais il y a forcément une corrélation. En dehors de Lionel Messi, c'est quand même les trois meilleurs joueurs de l'Argentine qui sont sortis. Le mec, il a sorti ses trois meilleurs joueurs pour différentes raisons. Hein, je ne l'accuse pas. Acuna, Molina, De Paul.
Il pensait qu'il était qualifié.
Voilà. Exactement. Donc, ça peut expliquer aussi que la tactique du kick and rush qui a été mise en place par Van Gaal pour la fin, pour revenir. Et je pense aussi, je rajouterai, mais après, avec Dessy, on peut faire aussi. On peut refaire le monde. Que le dernier but, l'égalisation, voilà, à 111e minute, je crois, elle est très 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 chanceuse. L'Argentin, il est à moitié en déséquilibre,
non, mais Stéphane,
il tombe
Stéphane,
en arrière et
Stéphane,
tout.
Stéphane, je t'explique simple. Ce n'est pas une chance ou c'est pas un truc. C'est un truc qui a été travaillé.
Oui, mais c'est une grosse chance.
C'est pas une chance de le réussir, puisque Weghorst l'a déjà réussi avec Wolfsburg cette année. Wolfsburg. Et il l'a tenté aussi plusieurs fois.
Mais ce n'est pas une chance. Dans les faits, on voit bien.
Ça a été une combinaison.
T'en as besoin, Stéphane.
Non, mais je suis d'accord.
Ça, c'est comme la tartine qui tombe du côté de la confiture.
Et le pénalty. C'est comme si on dit le pénalty.
Et bah, moi, je dis, justement, à de l'Argentine. Tu parles de l'Argentine. Je crois que tu revenais sur l'Angleterre.
Oui, non, mais l'Argentine, on va parler sur ça. Messi, l'arbitre, déjà, il a favorisé l'Argentine et Messi. Sur tout le match,
moi je trouve
clairement.
Moi,
arrête, Eric, tu vois juste un petit détail.
Je trouve que l'arbitrage est bien.
Juste un petit détail. Il y a un joueur argentin qui a pris un carton jaune parce qu'il a émis une main. une main réflexe.
Un truc oui, non, mais là, tu as vu la main de Léo Messi. Bah oui, bah,
elle est volontaire.
Oui, bah oui.
Comment il ne prend pas de carton jaune?
Voilà, oui.
C'est un scandale.
Bien sûr.
C'est un scandale.
Tout à fait d'accord avec toi.
Parce que juste après, il prend un carton jaune pour contestation quelques temps après. Mais si, il l'avait déjà
dit, tu sais.
Il conteste pas. Ça lui fait déjà deux cartons jaunes. Ça fait un rouge.
Oui, mais il aurait pas mis.
Il a dit.
Il aurait pas contesté, ça se peut, mais ça reste quand même des petits trucs.
Je sais pas quel match c'était.
Dès qu'on touchait Messi, il y avait
un match.
Elle a dit, c'est pas Messi ou pas Messi. Quand tu regardes le match de Griezmann, la deuxième faute qu'il fait, il peut prendre rouge. Moi, je suis même fou devant ma télé. Mais quand les arbitres, que ça soit en Ligue des Champions, dans les grosses compétitions, pas dans les championnats, mais dans les grosses compétitions, que ce soit en Ligue des Champions, en Championnat d'Europe ou en Coupe du Monde, il y a toujours... sur en tout cas le deuxième carton ou un carton qui peut faire basculer. Oui, mais même un carton qui peut faire basculer.
Oui, mais une main volontaire.
C'est pour ça que...
T'auras toujours les grands joueurs et les plus joueurs.
Non, mais il ne faut pas mélanger. Faut pas mélanger les deux choses. Je pense qu'on ne peut pas assimiler le premier carton qu'il aurait dû avoir en disant quand il a eu le deuxième, il a rouge. Parce qu'il aurait dû avoir ce premier carton, c'est une évidence. Moi-même, j'étais choqué. Il se serait calmé. Et en plus, là c'est ce que disait Eric, l'arbitre ne lui aurait jamais donné un deuxième carton pour une contestation, qu'il se soit Messi ou que ce soit Enzo Fernandez.
Mais même le premier.
Le premier,
c'est n'importe qui à carton jaune.
C'est inadmissible.
Mais il a fait exprès, il s'est fait prendre en contre, il a fait ça.
C'est n'importe qui. Ah non, non,
c'est inadmissible. C'est parce que c'est Messi. C'est pas Messi,
c'est ce que je te dis.
C'est n'importe qui.
C'est clair.
Je te dis ça. Je te dis que. Mais c'est pas que Messi. Ça aurait été Neymar, ça aurait pu être pareil. Ça aurait été Mbappé, ça aurait pu être pareil. Parce qu'au bout d'un moment, les arbitres, au bout d'un moment, ils ont un côté en se disant, c'est quand même, si au bout d'un moment, tu commences à mettre sur quelqu'un qui est.
Non, mais c'est comme
le pénalty qu'on lui a accordé.
Elle a dit,
parce que vous avez vu
l'arbitrage à la maison. Tu connais, elle a dit.
C'est la force des plus grands, quoi.
L'arbitrage à la maison. Ça existe toujours, ça existe partout. Ça existera. C'est pas bien, ok.
Non, mais là, il y a des côtés. Il a dû être puni. Je pense que l'arbitre, il va être puni pour ça.
Noël
inadmissible de faire ça.
Vous en pensez quoi ? Il y a eu un arbitrage un peu contesté dans ce match entre les Pays-Bas et l'Argentine.
Oui, certainement, mais en tout cas, sur l'ensemble de la compétition, je trouve que l'arbitrage est bon.
Oui.
Parce que la VAR a quand même rectifié pas mal de choses.
Oui, grâce à la VAR, je pense.
Et même si on rouspète parce qu'il y a un hors-jeu pour un bras ou pour un pied, c'est quand même la justice qui est rendue. Et je trouve que les arbitres ont été bons. Après, sur tout ce qui est action de but. Après, dans le match, on ne va pas faire intervenir la VAR quand on veut donner 15 coups francs à l'Argentine et quand on donne 2 à l'équipe du Pays-Bas. Ça, on ne peut rien y faire. C'est l'arbitre qui décide.
Quand tu penses que les Anglais ont critiqué l'arbitre de France-Angleterre.
Ouais, mais enfin, ça, c'est par habitude.
On dit que là, deux pénaux, deux coups francs,
c'est par habitude.
Les Anglais,
on va en parler avec l'équipe de France et l'Angleterre.
Ils vont pas s'en remettre avant quelques semaines et quelques années.
Oui, oui. Alors, justement, tiens, on parlait de l'arbitrage. Un grand coup de chapeau donc à nos deux arbitres qui s'arrêtent là, puisqu'ils vont plus arbitrer d'autres matchs. Monsieur Turpin et puis Frappard. Mademoiselle Frappard.
Moi, je suis content pour.
C'est normal.
Oui.
Je suis content pour. Stéphanie, c'est ça ?
Oui, Stéphanie.
Ouais. Moi, je trouve qu'elle a fait une Coupe du Monde qui était plutôt bien. C'est sa première. Et moi, je suis assez fier de ça. Après, Turpin, voilà. Nous, on le connaît dans le.
Non, mais c'est bien parce qu'on parlait tellement d'arbitrage français qui était en retard. Et puis, finalement, on a vu qu'on était bien représentés dans ce mondial.
4 matchs, c'est ça ?
Oui.
Quatre
matchs. Elle a fait 4 matchs. C'est-à-dire qu'elle a fait un match comme arbitre et 3 autres matchs comme 4e arbitre.
Et Turpin,
je crois qu'il a fait 3 matchs et un comme 4e arbitre. Voilà.
Donc, il a été très bon.
Et c'est vrai que la VAR, on parlait la semaine dernière de l'Asie qui avait été donc dans le carré d'as, la Corée du Sud. Bon, on sait qu'il y avait eu beaucoup d'injustices, on sait qu'il y avait eu des décisions d'arbitres très contestées face à l'Italie puis l'Espagne. De nos jours, ce serait impossible. La Corée du Sud n'aurait pas fini dans le carré d'as avec la VAR.
Non, ben la Corée du Sud, ils étaient au taquet.
À l'époque, on se rappelle, on parlait de l'arbitrage, toutes les grosses erreurs d'arbitrage. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y aurait certains classements qui seraient donc à revoir.
Oui, bien sûr. Ouais. Mais bon, je pense que dans l'ensemble, on a eu un bon arbitrage.
Absolument, non, mais il faut
bien
dire.
Passé. Pour conclure,
oui, après on va parler du Maroc.
Pays-Bas, ouais. Argentine. Ouais. L'Argentine mérite sa qualification dans le match, au pénalty, peu importe, mais dans tous les cas de figure, c'est quand même mieux d'avoir l'Argentine qu'une demi-finale Croatie-Pays-Bas.
Ah, c'est vrai que pour le football, oui.
Sauf pour la vente des gyrosans ou des vitamines et tout, là.
Pas tout en même temps. Ouais, c'est sûr. Hein. Allez, on passe au Maroc. On en parlait tout à l'heure. Donc, le Maroc qui a fait déjouer le Portugal 1-0 après avoir fait déjouer en 8e l'Espagne 0-0 et 3-0 au tir au but. Le Portugal qui avait pourtant été impressionnant face à la Suisse 6-1 en 8e.
Ouais, mais alors il y a un aspect important que personne n'a souligné, qui est l'aspect tactique.
Oui.
Quand on voit l'Espagne qui joue contre le Maroc et quand on voit les deux défenseurs centraux qui font quelque chose comme 150 passes entre eux, alors qu'il n'y a pas un Marocain à moins de 40 mètres, on se demande à quoi ça sert la conservation.
Je suis d'accord.
Donc l'Espagne, quand il a joué le Maroc, elle est restée carrément dans son camp à faire des passes, à chercher à droite, à chercher à gauche, et les Marocains, ils sont restés en place, tranquilles comme Baptiste, parce que ça avançait pas, ça rentrait pas, ça n'allait pas fixer, ça n'allait pas au duel, ça n'allait pas dans les centres parce qu'ils n'avaient pas d'avant-centre avant de faire rentrer Morata. Et ça a été un vrai bonheur pour le Maroc d'avoir cette équipe d'Espagne qui jouait comme ça. Et ils ont fait tactiquement un match exceptionnel. Et on se dit, allez, arrive le Portugal. Le Portugal, avec ce qu'on a vu avant.
Ah oui, belle démonstration collective, hein. Ah oui,
grosse armada.
On se dit qu'ils ne vont pas pouvoir jouer comme l'Espagne. Ils ont fait la même chose.
Ouais.
Ils ont fait la même chose. Ils n'ont jamais été fixés. Et seulement quand Ronaldo est rentré, on a eu des ballons dans la surface de réparation où ça a poussé, on les a poussés à l'erreur, on les a poussés à la faute. Et le Maroc, il n'en demandait pas tant. Et je vais vous dire une chose. Si la France... le plan de jeu,
c'est la question que j'allais poser,
de l'Espagne et du Portugal, on va avoir mal à la tête mercredi soir.
Oui.
Parce que je peux vous dire que j'espère, et je suis sûr d'ailleurs, que Deschamps va demander à ce qu'on crée, à ce qu'on aille fixer, à ce qu'on dribble, à ce qu'on perde des ballons en créant, mais pas en faisant garder le ballon comme ça pour une conservation qui est inutile. La conservation de l'Espagne et la conservation du Portugal ont été des conservations inutiles parce que ça n'a rien apporté. Au grand bonheur du Maroc, et tant mieux pour eux, parce qu'ils ont été extraordinaires par rapport au plan de jeu de ces équipes adverses.
Oui, parce qu'on va rappeler l'état d'esprit, mais aussi une super belle défense, un seul but encaissé dans cette compétition, super belle défense, et puis des joueurs qui jouent remarqué un moment bien contre.
Ah oui, et puis un gardien,
qu'il
est imbattable.
On a l'impression qu'il est imbattable.
On frappe de près, de loin, un corner, il est toujours là. On comprend pourquoi qu'il a été sacré meilleur gardien d'Espagne devant
Courtois,
le gardien du Real Madrid. Hein,
À nouveau, on a perdu notre ami Noël. On a notre ami Julien Girafi qui vient d'arriver. Julien, bonsoir.
Bonsoir.
Bon, on commente les matchs qu'on a eu cette semaine. Julien, comment vous avez vécu, vous, cette semaine de Mondial?
Encore une belle semaine, comme auparavant. Mmh. Des matchs à suspense pour la première journée des quarts. Mmh. C'était vraiment hyper intéressant. Alors, quand l'Argentine se fait égaliser, c'est vrai que c'est un peu le coup de bambou derrière la tête, parce qu'on s'y attend. Enfin, c'est pas qu'on s'y attend pas, ça pousse, mais ils ont tellement pas été en danger pendant une bonne partie du match que ça paraît hallucinant. Mais on a vu des super matchs et puis pour finir.
C'est vrai qu'on a une super Coupe du Monde. On se rappelle chaque semaine, mais c'est vrai en plus.
Super Coupe du Monde et puis ce France-Angleterre pour conclure.
Oui, on va en parler du France-Angleterre.
Ah, c'est quelque chose de super intéressant.
Ouais, ouais, ouais. Bon, Croatie-Argentine, Maroc-France, deux demi-finales. Un peu inédite quand même. Hein.
Inédite, oui.
Ah, France-Maroc, oui.
Je ne voyais pas la Croatie réitérée après 2018, très honnêtement.
Elle a eu un peu de mal après 2018, mais elle est bien revenue après.
Oui, mais après, le Maroc, super surprise. Je pense que tout le monde est heureux de ça. On va avoir un super match en demi. On est content que ce soit eux spécifiquement, les Marocains. Et vraiment, On a pris du plaisir sur chaque match, hein, je pense.
Ouais. Et puis, on parlait du continent africain qui semblait stagner un tout petit peu depuis quelques années. Là, ça y est, avec le Maroc, grâce au Maghreb, ils ont pris une dimension encore plus forte et plus importante.
En tout cas, ce qu'il faut espérer, c'est que ça enclenche une dynamique et que derrière, il y ait une suite au prochain mondial et que, qu'on continue à vibrer sur des...
Il y a la CAN avant.
Il y a la CAN avant, mais bon, c'est...
Non, mais là, quand tu fais une Coupe du Monde comme ça, tu dois avoir de grosses ambitions pour la CAN.
Oui, il faut qu'il y ait de la continuité.
T'es obligé d'avoir une grosse ambition. Mais le côté que je regarde sur ces deux Coupes du Monde, moi je regardais ça là, hier ou avant-hier, en fait on a deux demi-finales qui sont identiques et c'est marrant. C'est-à-dire qu'en fait quand on a deux demi-finales où vous avez d'un côté une équipe avec une belle armada offensive et en face une équipe qui a une belle défense, des deux côtés.
C'est-à-dire que la
France a une belle armada offensive et moyenne plus... Au niveau de la défense, on l'a vu contre l'Angleterre. Hein. Je veux dire, on recule, on fait deux fautes dans la surface, on donne deux pénalties. Donc ça veut dire qu'on est... C'est pas qu'on est mauvais, c'est qu'on est un peu fébrile et qu'on est dans un côté comme ça. Donc il y a du problème. Par contre, on a une armada offensive qui est vraiment très très bonne. Je veux dire, il n'y a rien à dire. De l'autre côté, vous avez le Maroc qui n'a pas marqué beaucoup de buts. Par contre, on l'a vu, un but encaissé et en plus un but contre son camp. Donc le côté, c'est vraiment bonne défense, etc. De l'autre côté, vous avez l'armada offensive qui est plutôt pas mal de l'Argentine, avec une Croatie qui n'a pas une grosse armada, mais par contre qui a une défense qui est solide et qui va t'emmener aux... Donc on a deux configurations.
On verra quel est le football qui va l'emporter. Exactement. Si c'est le football offensif ou bien
C'est ça. Ça va être un petit peu le côté de ça.
Bon, bah, écoutez, on a été bavard, on va parler de l'équipe de France, mais auparavant on va écouter Stéphane.
Oui, c'est un jeune rappeur que je connais bien, que j'aime bien beaucoup, qui s'appelle Oggy, O2GY, et le titre c'est...
C'est Joe Cruise.
Voilà, exactement.
Voilà. Allez, on écoute ça.
Passerai la nuit dans le silence, le temps c'est si long, les minutes durent plus qu'un instant. Niveau critique dans le cœur, est-ce qu'on vit mieux dans la peur? Ils arrivent par derrière, les coups bas en Cadillac blanche comme Tupac. Ce soir c'est tout calme, après minuit les doutes parlent. Pourquoi t'es toute pâle? C'est ma faute. Dis-moi comment fuir quand les mots nous enferment. On n'est pas dans un film, on s'attend, on s'enterre. On en oublie la hache, elle est belle, elle est tranchante. J'ai perdu ma place et ton sourire d'enfant. On chavire dans l'avenir à deux sans moi. J'espère que tu vivras mieux. Cœur en panne comme une vieille radio à la recherche du mirage bleu. Ils voudraient que je me taise mais ne sont pas prêts pour la première étape. J'envoie cette reine dans l'espace Schengen en quête de sac. J'aime pas dormir seul après la soirée. Y'a les rêves dans l'appart, j'roule un filet quand j'croise. J'ferme les yeux, j'suis dans la vallée. Perdu dans ma tête, j'vois les villes si quand j'tourne. J'aime pas dormir seul après la soirée. Y'a les rêves dans l'appart, j'roule un filet quand j'croise. J'ferme les yeux, j'suis dans la vallée. Perdu dans ma tête, j'vois les villes si quand j'tourne. Je sors pas de chez moi, j'suis pas concerné par le 13ème mois. Tu m'effaces du schéma, tu sais que j'ai mal. Ma peine elle était pâle et pas le temps de fuir. On suit des rêves et la vie laisse des traces. T'étais la reine, j'étais le roi, t'as fait échec et mat. Matrix c'est comme les jeunes qui veulent la vie des autres. J'agirai comme mon rêve, je m'en fous de la vie des autres. J'avoue, je suis pas parfait, j'en ai déjà fait des fautes, mais rêve pas. Je suis loin d'être celui qui va baiser ses potes. Déboussolé quand je perds le nord, le corps tout près du bord. Les cloches sonnent 12 fois, je les entends qui résonnent. Quand je serai dans mon cercueil, je serai plus près des morts. Quand je reviendrai, je retrouverai le même désordre. Ma vision s'éclaircit, je sors pas de chez moi et puis je réfléchis. Obligé de dire, je suis pas un jeune en état léthargique. J'en mets ma bite, on fait la diff quand on rime en équipe. Quoi qu'on ait dit, on est des types droits. Je rêve, c'est comme un méga trip, roule un méga stick. On en a besoin, soi-disant pour l'inspi. Quand je relance une instru, je rime de speed. Désolé, je me lasse vite, le regard vide. Un saut, ton corps passe par la vitre. On dira rip et on oubliera vite, soi-disant c'est la vie. J'aime pas dormir seul après la soirée. Y'a les rêves dans l'appart, j'roule un filet quand j'croise. J'ferme les yeux, j'suis dans la vallée. Perdu dans ma tête, j'vois les villes si quand j'tourne. J'aime pas dormir seul après la soirée. Y'a les rêves dans l'appart, j'roule un filet quand j'croise. J'ferme les yeux, j'suis dans la vallée. Perdu dans ma tête, j'vois les villes si quand j'tourne. J'aime pas dormir seul après la soirée. Y'a les rêves dans l'appart, j'roule un filet quand j'croise. J'ferme les yeux, j'suis dans la vallée. Perdu dans ma tête, j'vois les villes si quand j'tourne. J'aime pas dormir seul après la soirée. Y'a les rêves dans l'appart, j'roule un filet quand j'croise. J'ferme les yeux, j'suis dans la vallée. Perdu dans ma tête, j'vois les villes si quand j'tourne.
FAN. Allez, c'est parti maintenant, on va parler de l'équipe de France. France donc, qui a battu l'Angleterre 2-1, on a suivi ça donc, samedi soir en direct sur notre antenne. Elle a dit d'abord un petit mot sur ce match. C'est vrai qu'on a tremblé, on a eu peur, on s'y attendait, mais on l'a fait.
On l'a fait, franchement, on l'a fait. Merci à Harry Kane hein, qui tire son penalty.
Oui, 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 oui.
Déjà dans un premier temps. Voilà, après, franchement, on l'a fait. Bon, dans le match, franchement, on n'a pas fait un grand match. On a été dominé pratiquement sur tout.
Surtout en début de deuxième mi-temps. Hein,
surtout, ouf. Bien sûr, bien ouais, sûr. Ouais. Mais on a beaucoup souffert, mais on a su, voilà, comme une ouais, grande équipe, quand comme on a d'habitude, su gagner dans la souffrance.
Ouais, ouais. Et ça, ça, on sait le faire maintenant, même dans la douleur, voilà, ouais, même dans la souffrance. Équipes, il y a des ça, matchs qu'on n'aurait peut-être pas gagné il y a 30 ans. Maintenant, on sait le faire.
Maintenant, on sait le faire, c'est ça.
Éric ?
Ouais, le côté, c'est qu'effectivement, sur le côté de ce match, je me suis beaucoup énervé.
Oui.
J'étais très content à la fin, effectivement. Ah bah oui, je pense que mes voisins s'en souviennent. Mm-hmm. Mais le côté, c'est que je trouve que c'est pas... Après, je compte sur Didier Deschamps, qui est un vrai meneur d'hommes et qui sait exactement. J'ai lu après, donc c'est pour ça que je comprends pourquoi je me suis énervé. J'ai lu que en fait, il a passé un savon à Théo Hernandez et qu'il a un petit peu moins, mais aussi pas loupé Tchouaméni. Je trouve que réellement, quand on domine comme on a dominé au départ, parce qu'effectivement, elle a dit après dit que effectivement après on a été dominé, mais au départ, c'est
oui,
pas,
en début
c'est
de deuxième
ça,
mi-temps, on a souffert, on a eu peur, mais là, quand même.
Un peu la fin de la première mi-temps, ouais. Mais allez, les trois quarts de la première mi-temps, on est dans une équipe où on gère le jeu, mmh, on gère tout, on mène. Et puis après, dès qu'on a marqué, en fait, on a reculé. On a reculé, et on s'est dit, c'est bon, maintenant, c'est fait. Mais non, c'est pas fait. Je veux dire, il y a 90 minutes,
c'est
peut-être 95, peut-être 100, 102.
De pression aussi.
Oui, mais ça, on dit toujours ce côté-là. Bien sûr qu'il y a une équipe en face. Mmh. Mais si on a pu le faire pendant avant le but, on a aussi la possibilité de le faire après. C'est-à-dire que si vous reculez pas, l'autre équipe ne peut pas jouer. Mmh. C'est-à-dire que, par contre, si vous reculez, eh ben, eux, effectivement, ils ont à se dire qu'ils perdent 1-0 et que donc, il faut y aller. Donc voilà, moi, ça m'a pas plu.
C'est un gros problème tactique, oui, qu'on pose souvent, ça. On dit, mais pourquoi, quand vous marquez un but, vous reculez? D'abord parce qu'on ne peut pas faire du pressing pendant 80
oui,
minutes.
Oui.
Donc, aucune équipe au monde.
Ça serait sinon.
Je vais vous prendre un exemple pour vous montrer qu'il y a des moments où on est obligé de reculer. On a corner contre nous, on ne va pas mettre notre défense aux 50 mètres dans la surface de réparation adverse. On est obligé de mettre la défense dans la surface de réparation. Et à partir du moment où l'adversaire il a douté. Tant que l'adversaire doutait qu'ils n'avaient pas marqué ce premier but, je pense qu'ils n'avaient pas pris conscience qu'ils pouvaient nous battre. Ils étaient comme des victimes expiatoires, ils attendaient et on menait au score. Et dès qu'ils ont vu qu'ils se sont créés une occasion, deux occasions, trois occasions avec Loris et qu'on était prenable, ouais, ils ont commencé à jouer différemment. Ils ont commencé à dribbler, à rentrer dans la surface de ballon au pied, etc., à provoquer des fautes. Et d'ailleurs, moi, si je suis l'entraîneur du Maroc, et je pense que Walid Redraghi va le faire, je vais demander à mes ailiers, Ziyech et Boufal, d'aller provoquer cette défense, rentrer dans la surface de réparation en dribblant. Et si jamais on est touché, ben on peut avoir un pénalty.
Ouais, il ne fera pas ça. Il ne fera pas ça. Il ne fera pas ça. Il va leur demander de surveiller, de défendre. Il va leur demander de défendre sur Hernandez, à mon avis. Il va leur demander plutôt de défendre que d'attaquer, hein, de les provoquer.
Oui. Moi, là où je suis le côté vis-à-vis de ce que dit Noël Tolisi, c'est qu'effectivement je suis totalement d'accord avec lui sur le fait qu'on ne peut pas faire 90 minutes de pressing, mais c'est pas sur le pressing moi que ça me pose problème, parce que vous n'êtes pas obligé de faire du pressing, c'est-à-dire que t'as pas besoin de faire du pressing pour jouer haut. La problématique, c'est que avant qu'on marque le but, on jouait haut, et dès qu'on a marqué, en fait, on a joué bas. Et ce n'est pas une question de pressing. Le pressing, moi, je ne demande pas que l'équipe en fasse 90 minutes. On ne peut pas. Il n'y avait aucune équipe. Il a raison, Noël Tosi. Mais le côté, c'est qu'on a reculé. Et ça, c'est une vraie, ah,
c'est
une vraie
chose. C'est quasiment toutes les équipes
du monde. Oui, mais c'est... Non, pas toutes les équipes du monde. Il ne faut pas dire. Moi, je suis habitué avec mon équipe de cœur. Je la connais. Je la connais très, très bien. Et c'est le gros problème. Oui. C'est-à-dire que dès qu'on commence à mener, on commence à se dire voilà, on est presque arrivé, etc., etc. Et ça nous a posé plein de fois de problèmes. Je pense que quand tu as les joueurs pour, et on a les joueurs pour, à la fois dans mon club de cœur et à la fois là en équipe de France, tu as la possibilité de continuer à jouer un peu haut, de ne pas faire un pressing tout le temps, mais de continuer à jouer haut.
Donc je voudrais attendre Valentin, puis après Julien.
Bah,
Valentin.
Justement, il y a quand même l'Angleterre, après qu'ils aient marqué, eux, ils prennent le contre-exemple de nous, c'est-à-dire qu'ils se disent on va attaquer, mettre la pression, parce que voilà. Mais Adrien Rabiot est à deux doigts de remettre un but directement bien pour l'équipe de France. Et là, il recule. Oui, et oui, c'est oui. Là aussi où les Anglais font l'erreur de reculer. Exactement. Et c'est pour ça qu'ils font rentrer Grealish à la 92e ou je ne sais plus quand. Parce qu'ils reculent, reculent. Parce qu'ils disent ah, quand même, on avait oublié qu'il y avait Adrien Rabiot dans cette équipe, qu'il y a Antoine Griezmann. À tout moment, ça peut arriver de nulle part. Et je pense que Théo Hernandez, et c'est ce qui a été révélé dans les papiers de l'équipe, c'est que Théo Hernandez, oui, a eu un savon à la mi-temps, car effectivement, au moment de marquer les 15 premières minutes, il fait vraiment dans son couloir, c'est un boulevard pour lui. Sauf que dès qu'on marque, il recule et recule, et c'est de là où viennent d'ailleurs les premières relances, là où on perd les premiers ballons. Et je pense que ouais, c'est ça, c'est qu'on a reculé, mais l'Angleterre a voulu faire le contre-exemple et ils se sont fait punir. Donc je pense qu'il faut trouver un bon équilibre entre les deux et après essayer de...
Ouais, mais t'en as. Au moins de faire un entre-deux, ouais. Tu vois. Au lieu de faire soit l'un, soit l'autre.
Noël, c'est une explication qui vous va ?
Non, il est toujours pas là.
Bon alors, Noël ? Bon, apparemment, il y a petits problèmes avec Noël Tosi. Donc Julien, c'est une explication qui
vous va ? Moi, je le rejoins d'une certaine manière. Alors, pour ma part, je pense que le début de match des Anglais est un peu timide parce que justement, ils ont cette crainte de l'équipe de France. Derrière, le but fait qu'ils sont obligés de se livrer un peu plus, mais ils ne se livrent pas complètement parce qu'ils ont toujours ce frein en se disant « la France peut nous faire mal sur une contre-attaque », donc ils n'y vont pas à fond non plus. Donc, moi, je veux bien, on a été dominé effectivement, on ne peut pas le nier, ça c'est une évidence. Par contre, on n'a pas non plus subi 15 000 occasions. Ouais. Et la France, pour moi, était dans une sorte de gestion, alors certes, aurait dû avoir un peu plus de maîtrise malgré tout, de ressortie de ballon pour aller chercher quand même quelques occasions, mais... moi, je pense vraiment que les Anglais avaient cette crainte et ont joué tout le match avec le frein à main en se disant « bon, on a quand même un risque à se lancer à corps perdu en attaque, donc on va y aller doucement, on a le temps de revenir dans le match. » Et voilà, comme l'a dit Valentin.
Et t'étais serein devant l'écran quand même ?
Non, mais...
Non, j'étais pas serein. D'accord. Par contre...
On oublie quand même, Philippe, qu'on a quand même eu, tout le monde l'a dit, on a quand même eu, je pense que ça a été... un des plus beaux matchs, quoi, peut-être pas le match, mais une des plus belles équipes qu'on a vues depuis le début de la Coupe du Monde. Les Anglais, ils ont quand même fait un très beau match, en dehors de la finition, caractérisée par ce pénalty d'Harry Kane qui a raté. Et faut pas oublier, c'est bien beau de dire, effectivement, on a trop reculé, on a ça, mais moi, je partage tout à fait ce qu'a dit Julien. Et en plus de ça, on a quand même eu aussi une montée en puissance de l'équipe anglaise, t'as un Saka, par exemple, que j'ai trouvé très, très, très bon, qui a aussi poussé, peut-être, qui n'a absolument pas gêné au début de match assez Théo Hernandez, mais qui après, lui, sur le côté droit, a fait sentir qu'il était là, a commencé à vouloir jouer, provoquer, percuter, et ça a fait du mal. Et t'es obligé de ça. Alors, après, on n'était pas, faut dire quelque chose, je pense que notre équipe, elle, même si on disait avant, on était confiant, parce que peut-être qu'aucun joueur anglais avait dit. C'était Malik, je crois, qui avait dit ça lors du match, n'avait sa place en équipe de France. Mais sans aller jusque-là, je pense que les Anglais, ils ont montré sur le match qu'ils étaient une équipe pas meilleure, j'aime pas dire ce mot-là, parce que les meilleurs, c'est ceux qui gagnent, c'est pas ceux qui gagnent, mais qui avaient une très belle équipe, en tout cas, peut-être supérieure à celle des Français sur ce match-là. Donc c'est un peu normal. Qu'est-ce qu'on se dit ? On gagne 1-0, on a Kylian Mbappé dans le truc, on dit on va jouer peut-être un peu plus bas. Ça nous déplaît, mais on va jouer un peu plus bas en essayant de ne pas se planter dans des relances. Ce qu'a fait, il y a eu d'abord, je crois qu'il y a eu une fois Rabiot, une fois Tchouaméni qui nous a mis en grand danger sur des relances. On va essayer de jouer juste, jouer propre, et puis on va les planter en contre avec Mbappé, avec le jeu de transition.
C'est très juste, Stéphane. Oui. Mais il faut savoir que quand on a été dominé, on n'a jamais récupéré un seul ballon.
Exactement, exactement. Voilà, c'est là qu'il y a eu un problème.
Et c'est... le ballon, et c'est là que le bas a blessé.
Ouais, exactement.
C'est-à-dire qu'on pensait qu'en jouant en bas, on allait pouvoir se servir de Dembélé et Mbappé. Et ça n'a pas été le
exactement,
cas.
Voilà.
Ça pas été le cas.
Ou de Mbappé, qui a pas, on n'a pas vu faire de même de moments, oh, il parle, ça y est, il passe et tout. Mais ça a été très juste.
Malgré tout, encore une fois, il y a deux erreurs individuelles qui amènent des pénalties, mais au-delà de ça, il n'y a pas non plus beaucoup d'occasions.
Il y a surtout une énorme erreur.
Au niveau des occasions, mais en domination, moi... en domination on était, ils étaient dans notre terrain 80% du temps. Quand j'entends Stéphane dire on n'a pas vu Saka au début, et puis après, en fait, on est dominé parce que en fait, c'est l'Angleterre qui, après, avec Saka et les autres, en fait, fait mais pourquoi on n'a pas vu Saka? Parce qu'on a joué haut. Parce que si au bout d'un moment, tu les laisses après jouer bas, et ben, au bout d'un moment, Saka, il prend ce qu'il n'a pas pu prendre dans le, non, dans le début.
Pas, c'est une façon de voir les choses. Bah oui, moi, je pense qu'un match, c'est deux équipes, il y a des grands joueurs, il y a des grands joueurs en face.
Mais je dis pas qu'il y a
Saka, c'est un grand joueur.
Je dis pas qu'il y a
pas.
Mais on l'a pas vu quand on a joué haut.
Non, on l'a pas vu. Moi, parce je dirais, on l'a pas vu le premier quart d'heure. C'était anormal de ne pas voir pendant le premier quart d'heure un joueur de ce niveau-là. C'était anormal. Je pense qu'il est aussi, monté en puissance.
C'est pas anormal. Et
effectivement, comme le dit Noël, il a raison. Ce qui a pêché dans cette, même si on n'a pas eu trop effectivement, d'occasions contre nous, ce qui a pêché dans cette rencontre, c'est qu'on n'a pas su. Je dirais, j'aurais tendance à dire, on n'a pas su bien faire ce qu'il fallait faire, en fait. Mais on l'a mal fait.
Mais quand tu dis c'est anormal de voir Saka, non, c'est pas parce que c'est Saka. Oui, regarde, quand tu vois... quand c'est anormal qu'un joueur, tu le vois pas, bah c'est parce que l'équipe adverse a fait tout pour... Et on peut le regarder. Le seul exemple, c'est qui? C'est Mbappé. Mbappé, tu l'as pas vu. Parce que l'équipe a fait pour faire. Et ben Saka, on a fait ça pendant... Quand on a joué haut, mais dès qu'on est descendu trop bas, effectivement, on n'a pas récupéré, et Noël Tosi a raison, on n'a pas récupéré de ballon. Mais si on avait joué un peu plus haut, et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas un pressing, Tosi, dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, je suis d'accord avec vous, c'est impossible de faire un pressing pendant 90 minutes. Mais ce n'est pas là où moi je les attendais. Moi, j'attendais à ce qu'on ne recule pas pour qu'on continue à pouvoir essayer d'aller chercher des ballons. Et en jouant bas, on n'a pas pu faire ça parce que, et en plus, on prend un risque, et on l'a vu, c'est qu'on n'a pas une défense. On a une défense qui a de l'envie, mais on a une défense qui n'a pas d'expérience. Et on l'a vu, qui fait des erreurs de jeunesse. Et ils ont fait deux erreurs qui sont des grosses erreurs quand même, dont la deuxième, parce qu'après en avoir fait une, refaire la deuxième, ce qu'a fait Théo Hernandez, c'est vraiment une erreur de jeunesse, alors qu'il fait une très bonne Coupe du Monde. Mais le côté, c'est qu'en jouant, en continuant, à la rigueur même, en faire un mix entre les deux, comme le disait Valentin, c'est-à-dire ne peut-être pas jouer aussi haut qu'on avait joué, mais jouer un mix entre les deux pour pouvoir récupérer beaucoup plus de ballons et ne pas laisser jouer l'Angleterre, alors qu'on l'avait fait dès le départ, on les avait beaucoup plus étouffés en jouant beaucoup plus haut, et bien là, on aurait été beaucoup moins en difficulté.
Alors, ce qui est vrai, c'est absolument vrai, ça, et je dirais même plus que... ça a été un peu une spécialité de Deschamps depuis le début du mondial. C'est-à-dire, on a des périodes pendant 15-20 minutes, on joue haut, et après, hop, on recule, surtout quand on mène au score, on recule derrière la ligne médiane pour justement jouer le contre avec Mbappé.
Totalement.
Des contres avec Mbappé, on n'en a eu qu'un, et c'était bien parce que ils nous ont fait rire, les Anglais. Loris, il n'était pas bon. Walker, il allait plus vite que...
mais c'est de la toque, ça, Noël. C'était de la toque, ça, avant le match.
ils avaient des joueurs qui étaient meilleurs qu'Mbappé. Saka, c'était extraordinaire. Ça y est. Et puis, finalement, ils ont perdu. Et la seule accélération qu'Mbappé a fait, il a mangé Walker, regardez.
Mais bien sûr.
Il lui prend deux matchs. C'est le seul moment où on a réussi à le trouver.
Et c'est là, comme tu
le disais tout à l'heure, fort justement, on n'a pas réussi à récupérer des ballons au milieu de terrain.
Totalement.
Et essayer de mettre des ballons dans le dos de la défense pour justement les prendre à défaut.
Mais bien sûr.
Pour en revenir à ce match, je suis d'accord avec vous, c'est un vrai bonheur d'avoir battu l'Angleterre.
Ah oui, c'est sûr. Harry Kane, il va s'en vouloir toute la vie. Hein. Harry Kane.
Ouais. Mais, moi, ce que je voulais savoir, Philippe, c'est est-ce que Harry Kane, c'est le frère de Moise Kane?
Non, c'est Harry Kane.
Voilà. Ou de Roy Kane, peut-être.
Harry Kane. À Noël, ouais. Il va s'en vouloir toute sa vie, hein, notre ami.
Bah, je pense que c'est pas facile. Hein. Ouais. On a eu une explication après le match, tout de suite après le match, parce qu'on s'est aperçu qu'en fait, sur le premier ballon, part du mauvais côté, donc il a le temps d'ajuster sa balle et de mettre un plat du pied qui n'était pas très fort en prenant Loris à contre-pied. Et sur le deuxième pénalty, il s'aperçoit que Loris part du bon côté, à ce moment-là, il veut mettre la patate, comme on dit, il veut mettre plus de force pour pas qu'il arrive à l'avoir. Et c'est là qu'avec son corps en arrière, le ballon monte. Entre nous, si on était 2-2, qu'on devait faire les prolongations, avec le banc qu'on a, on n'était plus là.
Tant mieux pour nous. Alors justement, le côté émotionnel, Eric en parlait, Harry Kane, Eric, c'est peut-être le côté émotionnel d'après vous.
Oui, le côté, c'est que je disais en avant-émission, Noël Tosi, je voulais avoir votre sentiment sur ça. Je disais que en fait, il y a le premier pénalty, il y a le deuxième pénalty. Et pour moi, qui travaille sur le côté mental, il y a un côté où le premier pénalty, il n'y a pas de pression. On est dans le match et on est dans un côté où, effectivement, c'est l'égalisation, c'est bien, etc. Mais vis-à-vis de la pression qu'a l'Angleterre, c'est-à-dire que depuis toute cette génération-là, ils font demi, ils vont en finale, ils ne gagnent pas. Ouais. Ils ont tout ce côté où la pression se rajoute de compétition en compétition par la presse, par leur pays, par tout ça, en disant vous avez quand même une belle génération, vous allez loin, mais en fin de compte, ça passe jamais. Et donc, sur le deuxième pénalty, j'ai l'impression, moi, en tout cas, que c'est dans la tête d'Harry Kane, c'est pas la même pression que dans le premier, et que s'ils avaient gagné une compétition avant, je pense qu'il n'aurait pas eu, il aurait pas eu cette problématique-là et il l'aurait mis.
Ah oui.
Moi je pense.
Ouais, je suis d'accord avec ça. Ouais.
Après moi je pense que
deuxième pénalty est plus dur à tirer.
Ah bah oui, c'est sûr. Surtout qu'ils se connaissent bien.
Oui, mais ils se connaissent bien. Voilà, c'est ça le truc. C'est surtout que c'est son coéquipier quand même.
Oui.
Voilà,
bien sûr.
Voilà, surtout qu'ils se connaissent bien quoi. Du coup.
Mais quant à ça, tu dois pas tirer deux fois le pénalty.
Moi c'est ce que je pensais aussi. Mais après, en fait, dans les deux cas, on aurait parlé. C'est ce que je disais parce que c'est le capitaine. Il doit prendre ses responsabilités.
Mais au-delà de ça.
D'accord, il va laisser qui tirer. Moi,
t'en as plein.
Moi je disais Saka.
Rashford,
il était même pas encore sur le terrain.
Il est pas encore sur le terrain sur le deuxième pénalty.
Non, Rashford,
Sterling, ils sont pas là tous les deux.
Non.
Ah d'accord.
C'est compliqué.
Il y a Phil Foden, mais Phil Foden, les trois jeunes.
Non.
Tu peux pas le laisser. Et même Saka, il le rate après.
Oui, t'as raison. Il a déjà
raté un Saka.
T'as raison.
Il est obligé de prendre ses responsabilités. Il est obligé de tirer.
T'as raison.
Il y a plein de facteurs et on le voit quand Harry Kane repose le ballon une deuxième fois sur le point de penalty, on se dit qu'il est dans le doute là à ce moment-là. En tout cas, moi j'ai ressenti comme ça.
Tu vois où il est.
Et j'ai dit à ma compagne, il va tirer au-dessus parce que on sent qu'il est dans un truc. Il y a le fait qu'il y ait le risque, c'est un mélange de plein de facteurs qui fait que le mec, il reste pas beaucoup de temps à jouer, il se dit là tout repose sur moi et là il y a un monde sur lui.
Et moi je me suis pas dit il va le tirer au-dessus, tu vois, réellement, mais par contre, vis-à-vis de ce que tu viens de dire là, Julien, il y a un truc qui m'a fait dire au bout d'un moment, il doute, c'est que si tu vois, il pose le ballon sur le point de pénalty, il va pour le tirer.
Ouais.
Et après, il revient et il remet le ballon là, beaucoup mieux qu'il ne pense qu'il n'était. Alors voilà, qu'il était sur le point de pénalty. Et c'est là que tu vois qu'il y a un côté mental où tu te dis, il doute de quelque chose. Il doute lui-même, pas du truc. Il se dit, est-ce que le ballon est bien mis? Est-ce qu'il n'y a pas le côté...
Bon, on voit sur sa tête aussi, il est extrêmement...
Oui.
Alors moi, j'ai une question, Noël. Est-ce que c'est possible? Moi, je me dis que c'est possible. Je suis de toute façon anti... joueurs de club qui tirent penalty entre eux. Est-ce que c'est possible? Ils ont joué ces 7 ans, je crois, ensemble. Ils sont depuis 7 ans à Tottenham. Qu'il y ait des moments dans des matchs où Harry Kane, il est dit à Hugo Lloris, moi, quand j'en rate un, peut-être qu'il en a raté un dans un match il y a 3 ans. Il dit, de toute façon, moi, je retire toujours du même côté. Moi, c'est comme ça, c'est la confiance, c'est le côté et tout.
Ah, c'est sûr.
Et que Lloris, il savait qu'il allait tirer là. Ce qui part exact. En tout cas, s'il met le même. Je suis sûr que s'il met le même qu'il a mis dans le premier.
Si Lloris a la main ferme.
Ouais, si Lloris a la main ferme, exactement. Mais en tout cas, il est dessus. Il va exactement là où allait le ballon. Et moi, je pense, pour ajouter encore plus de ce que tu as dit, Noël, je pense qu'il a senti ça au moment où il tire et il a changé sa façon de tirer parce qu'il a senti que Noël Tosi est fait. Donc c'est pour ça que Noël Tosi, que Hugo Lloris, c'est sûr. C'est la deuxième fois que je t'avais dit. Non, mais mon idole, c'est normal. Ça fait la deuxième. Voilà. Bref, et il a senti qu'il allait y aller.
Je vais vous donner un élément que vous avez peut-être vu sur les séances de tir au but.
Oui.
C'est que souvent les pénalties sont tirées ras du sol. Sont souvent tirés ras du sol, petit filet ou ras du sol. Moi, je sais que quand j'exerçais mes joueurs à faire des séances de tir au but, je mettais un élastique au milieu du but et je leur demandais de tirer au-dessus de l'élastique.
Voilà.
Pour quelle raison?
Ben, monsieur Tosi,
parce que les pourcentages.
C'est fou que vous disiez ça parce que
on a parlé
avant l'antenne, je disais à Philippe, en fait, les tireurs de pénalty qui voudraient pas se dire je les mets tous à 100%, mais qui voudraient se dire j'aurais plus de 80%
à 90% de réussite, ce serait ceux qui, en fait, vont tirer pleine puissance et centre du but.
Et mi-hauteur.
Oui, c'est mi-hauteur, ça, mi-hauteur, centre du but.
Ouais. Ouais. Parce que tu as vu, je ne sais plus si c'est le gardien du Brésil, qui est parti d'un côté et qui a
exactement
son pied ramené
là. Exactement.
Alors que c'était tir au milieu.
Totalement.
Ouais. Contre la Croatie, les deux pénalties ont été tirés au milieu. Passé,
ouais. Exactement.
Mais quand un joueur est en doute, en général, ça arrive souvent qu'il tire au milieu fort. Parce qu'il n'a plus envie de choisir un côté, parce qu'il sait que, voilà, j'ai déjà tiré 4 fois à gauche, 4 fois à droite, hein, ça gamberge. Et à ce moment-là, il se dit, je tire fort au milieu, j'ai quand même bonne chance que ça passe.
Mais c'est même pas, Julien, de bonne chance. Ouais. C'est-à-dire que quand tu tires sur un côté, tu sais que le gardien, tu as une chance sur deux, parce que tu sais que le gardien va choisir un côté.
Exactement.
Donc s'il choisit le bon, de toute façon, tu as perdu. Alors que si tu tires au centre, tu sais que le gardien ne va pas rester immobile comme ça au centre. Il va plonger d'un côté ou l'autre. Donc tu as de très, très, très grandes chances.
Eric, je regardais ça et moi-même, c'est ce que je disais. Et je disais que voilà, mais il y en a un qui l'a fait contre. Ça m'est sorti de la tête. En tout cas, dernièrement, là, il y a eu un pénal. Messi, avec les Pays-Bas, je crois. Le premier penalty qu'il met, je crois, c'est ça. Le gardien, il bouge pas, il reste au milieu.
Ouais, mais ça arrive.
Il reste au milieu. Oui. Non,
alors
non,
que les côtés, c'est 50-50.
Non, c'est ce que je dis, mais en
alors,
gros, que des fois aussi.
Oui. Là-dessus,
oui, Noël.
Parce que j'ai ma petite idée sur l'ordre des joueurs qui tirent. Regardez le Brésil. Le Brésil, on a gardé Neymar pour le 5e penalty parce que si jamais c'est le penalty vainqueur.
Oui, mais.
Et finalement, on n'y arrive pas au 5e penalty parce qu'on fait tirer des défenseurs, on fait tirer des jeunes, et on passe au travers. Alors que l'Argentine.
Oui, toujours.
Le premier tireur. Messi. Qui a été le premier tireur. Et voilà.
C'est Messi. Ça donne le ton.
Il a bien vu la séance de tir au but la veille.
Vous savez, monsieur Tosi, ça, le côté, moi, on a eu une grosse discussion juste après l'élimination du Brésil. Et le Brésil a toujours fait ça. Et le côté, c'est qu'aujourd'hui, on pointe du doigt parce qu'effectivement, on ne va pas au truc. Moi, je pense que ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est que dans cette équipe-là, il y a d'autres tireurs au lieu de Rodrigo qui ont l'expérience des pénaltys et qui peuvent remplacer sur le premier tir au but Rodrigo comme quelqu'un d'expérience et garder quand même Neymar parce que ça s'est souvent passé avec le Brésil où il y avait besoin d'avoir un des meilleurs qui est presque l'un des meilleurs tireurs de pénalty de la planète, presque, sur ce côté-là. Et ça marche. Je pense que l'erreur, ce n'est pas de mettre Neymar en dernier. Je pense que l'erreur, c'est de mettre Rodrigo en premier.
C'est de mettre un inexpérimenté en premier, effectivement. Pour moi, il faudrait mettre en premier et en troisième les joueurs qui ont une habitude.
Tu mets Casemiro, en premier.
Pour donner
t'as
le ton
moins de problèmes que si tu mets Rodrigo.
Mais tout simplement, si tu te rates sur les premiers, les autres ont tous la pression.
Mais bien sûr.
Si tu mets les deux premiers, les trois premiers...
Sans mettre Neymar, mais tu te gardes quand même ton deuxième qui est bon en dernier.
Et je voudrais même rajouter un truc, et que surtout, on a tous vu, quand Rodrigo tire le penalty, il le rate, il s'effondre.
Mais bien sûr.
Et là, tous les supporters sont là, alors que Casemiro, il n'est pas comme ça. Casemiro, il va louper son penalty, il va faire un truc merde, et il va dire, les mecs, les autres...
Il y a de grandes chances
faut pas les louper. Il y a de grandes chances qu'il loupe pas, mais même s'il loupe, il sera pas là à se mettre par terre. Oh, mais tu vois,
c'est ce que ça génère Rodrigo, mentalement pour les autres tireurs.
Bah, le mental est important.
Le premier, le deuxième tireur, si il se rate, c'est vraiment. On est dans quelque chose qui change la donne complètement.
Comme j'entendais après, je vais donner la parole à Stéphane. Mais comme j'entendais le commentateur qui disait ah oui, l'équipe qui commence à tirer les penalties a un avantage. Mais oui et non.
Oui,
non, mais oui et non. Parce que mentalement, si elle le loupe, sur l'ensemble de son équipe, c'est une pression qui est décuplée par le nombre. Donc, c'est du 50-50. Il n'y a pas l'équipe qui tire le premier ou pas.
L'équipe qui tire en premier et qui la met.
Oui,
à l'avantage.
Ça, d'accord.
Oui, qui tire en premier et qui la met.
D'accord.
Voilà, parce que de l'autre côté, ils savent que.
Je crois que sur.
On a vu, juste avant le pénalty, vous savez que dans toutes les équipes, il y a des assistants vidéo qui se penchent sur tous les détails d'une équipe. Et on a vu, juste avant qu'Harry Kane tire son premier pénalty, qu'il tirait 90% de ses pénaltys à la droite de Loris.
À gauche.
Le premier, il le met à gauche de Loris.
Ouais.
Vous vous rappelez ?
Oui.
Mmh. Voilà. Et donc, il s'est dit que peut-être le deuxième, il allait revenir à ce qu'il faisait le mieux, c'est-à-dire la croisée.
La croisée.
Juste sur la séance des tirs au but, c'est vrai qu'il y a eu dans l'excellent site Le Quotidien du Sport, il y a eu un article. J'ai eu l'occasion de faire un article sur les séances de tirs au but avant les quarts de finale. Pour bien prévenir les gens avec toutes les petites les informations méconnues, parce qu'il y a plein d'informations qu'on ne connaît pas. Je suis sûr que Noël, même toi, tu les connais pas. Donc j'ai fait plein de recherches et j'ai vu effectivement, vous parliez de cet ordre. Moi, quand j'ai joué au foot, quand j'étais jeune et tout, on avait coutume de dire effectivement une séance de tir à pénalty, ton meilleur tireur, c'est le premier, et ton deuxième meilleur tireur, c'est le cinquième. Mais épreuve à l'appui fait par des, j'ai appris en me documentant, qui disait, il y avait une autre théorie qui disait au contraire, fallait mettre le meilleur en premier, le deuxième meilleur en deuxième, le troisième meilleur en troisième, qui valait mieux faire comme ça pour effectivement ce que tu disais là, Julien, pour donner confiance. Et dernière petite chose, je crois que sur les 8 dernières séances de tir au but, je me demande si sur les 8 dernières séances de tir au but, je crois que les premiers tireurs, on doit avoir tous perdu, je crois. Perdu la séance. Quoi. Perdu, non, c'est pas forcément. Non. Je ne sais pas s'ils ont raté, mais en tout cas, ils ont perdu la séance de tir au but. Séance de tir au but.
D'accord. Noël, pour conclure Pour conclure
oui. Je suis pas sûr, la Croatie, je crois qu'ils avaient commencé. Pour conclure, il faut absolument que
la Croatie,
qu'on ne fasse pas ce qu'a fait l'Espagne et le Portugal.
Voilà.
Pour qu'on soit créatif, pour qu'on aille chercher ces Marocains, qu'on aille les provoquer, qu'on rentre dans la surface de réparation. Qu'on arrête de faire de la passe à 10 et de la babale. Et il faut vraiment qu'on joue comme on a joué ces derniers matchs, quand on a joué contre des défenses groupées, où on a été plutôt créatif. Il faudra un grand Dembélé, un grand Mbappé. Et il faudra des milieux de terrain qui, eux, peut-être auront la solution dans ce match, comme on l'a vu avec Tchouaméni, peut-être avec Rabiot, etc. Et c'est peut-être eux qui auront la solution, parce que quand on joue avec une défense où il y a deux stoppeurs, un libéraux et deux numéros 6, le pauvre avant-centre, il est rare qu'il soit à la fête. Donc, c'est les joueurs qui sont libres, plus ou moins, les défenseurs pour les dernières passes, les milieux de terrain peut-être présents dans la surface de réparation, qui vont faire que la France va trouver la solution contre le Maroc. Mais je vous le dis...
Ça sera difficile.
Pas gagné.
Mais je pense que l'avantage, M. Tosi, qu'on a, c'est quand même quand on regarde la Belgique, l'Espagne et le Portugal, ces trois équipes-là, en fait, n'ont quasiment... Je ne dis pas du tout, mais n'ont quasiment pas joué par les ailes. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas les joueurs pour, et ils ont joué comme ils pouvaient par le milieu de terrain. L'Espagne a fait de la possession via le milieu de terrain au milieu, mais sur les ailes, ce n'était pas ni les foudres de guerre. La Belgique, c'était
juste.
Catastrophique.
C'est juste.
Alors que nous, on a Dembélé d'un côté, on a Mbappé de l'autre, et je pense que c'est là qu'on peut faire mal au Maroc et que le match soit différent des trois grosses nations qui sont tombées contre un Roc.
Et puis il y a quelque chose auquel on n'a pas encore parlé, peut-être on peut en parler avant de terminer, c'est que les Marocains ont fait deux fois 120 minutes. Et avec quelle débauche d'énergie.
Ouais.
À un moment dans ce match, ça va leur peser dans les jambes. Voilà.
Oui, je voulais rebondir là-dessus parce que je pense que les confrontations du Maroc sont pas forcément comparables, d'une part parce que la Belgique pour moi n'était pas au niveau de cette Coupe du Monde. L'Espagne, c'est son jeu, effectivement, de faire tourner pendant longtemps, etc. Et je pense que le Portugal, c'était plutôt contraint. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas arrivés, ils n'ont pas eu cette approche, cette envie de faire comme l'Espagne. Mais dans la façon de jouer du Maroc, tu te dis, j'ai le temps, je ne vais pas me précipiter, je vais aller doucement. Et en fait, ce faux rythme fait que finalement, tu ne te lances jamais dans le match complètement. Tu ne vas pas au bout de tes actions, tu ne te lâches pas complètement. Et je pense que ce n'était pas voulu. Donc, on peut se dire, il ne faut pas avoir cette approche-là. Je ne pense pas que Deschamps aura cette approche-là. Mais après, sur le moment, quand débute le match, c'est là que c'est plus compliqué de redéclencher des choses quand on n'arrive pas à faire ce qu'on a mis en place.
Après, moi, je pense que, honnêtement, moi, je pense que c'est les choix du coach qui n'ont pas été bons. Ils ont surpris la Suisse en mettant Gonzalo Ramos, etc. Le jeu qu'ils ont mis en place, il était bon pour la Suisse. Mais comme l'Espagne, par exemple, je suis sûr de la façon dont ils ont joué contre le Maroc, ils auront pu jouer contre la Suisse ou n'importe quelle équipe, ça aurait porté ses fruits, mais pas contre le Maroc. Pas contre le Maroc. Contre le Maroc, t'es obligé de mettre Cristiano Ronaldo. Ça c'est un truc indéniable. Oui. En pointe, je te le dis. Ah non, mais je te le dis.
J'ai pensé à toi.
Non, mais ça change le jeu. Parce que quand t'as un Gonzalo Ramos, tu fais tourner le jeu. tu vois bien.
Je
mais quand t'as
un
Cristiano, c'est vers Cristiano, vers Cristiano. Donc ça fait vers l'attaque, vers l'attaque. Et soit il fait la passe décisive, soit il fait un but. Et il n'y a que quand Cristiano il est rentré qu'il y a eu des vraies
mais
occasions.
Mais pas que. Il y a aussi.
On a fait un article avec Stéphane dans le quotidien du sport où on explique que le Portugal a perdu son mondial à cause de la gestion de Ronaldo. Est-ce qu'on a encore quelques minutes pour expliquer?
Oui, bien sûr. Oui, encore un peu.
On a quelques minutes.
Alors, parce qu'on a tellement de sujets derrière.
On part du postulat que Ronaldo a été traité avec le revers de la main à Manchester United, avec un entraîneur qui ne voulait pas de lui, qui le détestait, qui l'a humilié en voulant le faire rentrer à la 87e minute contre Tottenham, qui ne l'a jamais fait jouer contre Manchester City, alors que c'est dans ces matchs-là qu'on a besoin de Ronaldo et qu'ils se sont fait étrier par Manchester City. Il arrive en Coupe du Monde, il fait plutôt un bon début de Coupe du Monde, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, dans les premiers matchs, et là, on arrive à ce troisième match, où à 20 minutes de la fin, il sort Ronaldo. Et j'ai pris l'exemple de Christophe Galtier, quand il avait les matchs de Champions League, qui a parlé avec Mbappé, qui a parlé avec Neymar, qui a parlé avec Messi, et qui leur a dit, voilà, moi, je vais vous économiser un championnat. Donc, Neymar, tu vas sur le banc. Mbappé, je te sors à la 60e. Et Messi aussi. Donc, pourquoi l'entraîneur du Portugal, Santos, ne s'est pas mis d'accord avec sa star en lui disant, je vais te garder.
Oh. Ah. Ouais, comme j'ai lu l'article, effectivement, c'est ce que je vous disais au début, hein, que Noël reproche. Et là, effectivement, c'est ce qu'on disait aussi samedi, d'ailleurs même avec Noël. Tu prends Cristiano Ronaldo, c'est effectivement pour le faire jouer, même si. Bon. Mais ce que je voulais juste rajouter, c'est qu'à la fin, quand on disait qu'il n'avait pas les joueurs pour, et où il s'est planté, à mon avis, Santos, c'est encore plus que Ronaldo, mais peut-être les deux ensemble, justement, c'est aussi quand il fait rentrer Léao. Il fait rentrer Léao d'un côté, en ailier, il est passé pratiquement à chaque fois, Léao, et il a amené le danger dans les 18, et il s'est privé de lui. Non, moi,
Léao, il doit être titu.
Mais c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou.
Impossible de ne pas le voir titu.
Mais ce qui est incroyable, juste, Noël, je vais te redonner la parole.
Ils ont été coupés,
c'est des amis. Je crois qu'il y a eu une relation plus poussée que sélectionneur et joueur entre Ronaldo et Fernando Santos.
Oui, ils sont très
C'est pour ça qu'il devait lui faire confiance.
Exactement.
Il devait lui parler avant le troisième match.
Ouais, monsieur Tosi.
Oui.
Il s'est passé juste quelque chose. C'est aussi, il faut le voir aussi. C'est-à-dire que avec la grandeur qu'a surtout avec le message qu'il fait sur son Instagram après la défaite où il parle équipe, toujours équipe, toujours équipe. Lui aussi aurait pu faire. Je pense que le geste et ce qu'il dit sur son sélectionneur quand il sort du match, le dernier match avant les huitièmes. Je sais que tu vas le défendre. Au bout d'un moment, quand t'es dans un côté d'idole, tu peux pas avoir le côté du sens. Moi, j'ai pas un côté d'idole, donc je peux avoir ce côté de sens. Le côté, c'est que quand t'es avec l'équipe nationale, c'est pas la même chose que quand tu joues avec Manchester United. C'est pas la même chose. Ce qui s'est passé, je suis d'accord avec Noël Tosi, ce qui s'est passé à Manchester United, il y a un manque de respect. Ça, c'est totalement parce que c'est un club, c'est pas la même chose. Quand tu es avec ta sélection, tu peux être la star de l'équipe, tu dois quand même si tu es la star de l'équipe, tu es quand même une star de l'équipe qui arrive à la fin. Donc, il faut quand même aussi le comprendre. Tu as un match avant où Gonzalo Ramos met un doublé ou un triplé, je crois même.
Non, c'est pas le match d'avant.
Non, c'est le match d'après, c'est en huitième.
Oui, c'est contre la Suisse.
Il parle de la sortie contre la Corée.
Le côté quand il le sort, quand il le sort, il dit des choses qui ont été reprises au Portugal. Et il faut voir que au Portugal, non mais le côté Eladji, parce que il a été lu exactement ce qu'il a dit. Il a pas mis sa main devant sa bouche, donc il a été lu. Le côté, c'est qu'il faut voir quelque chose, c'est que Cristiano Ronaldo, au Portugal, c'est une idole. C'est plus qu'une idole, c'est une icône. Moi, je connais assez bien le Portugal, c'est une icône. Et le football au Portugal, c'est la deuxième chose après la religion. C'est-à-dire que c'est comme dans les pays du Sud, mais encore plus dans le côté du Portugal, à ce niveau-là. Il y a un quotidien sportif, l'équivalent de l'équipe chez nous, qui a demandé un sondage et a demandé de voter. Il y a eu beaucoup, beaucoup de votants. Beaucoup. Et qui a demandé, est-ce que Cristiano Ronaldo on a le droit de le mettre sur le banc, et est-ce que Fernando Santos est dans son droit vis-à-vis de ce qui s'est passé, etc. 78% étaient d'accord avec Fernando Santos. Donc ce que je veux dire, c'est que sur un pays qui est autant en idolâtre que ça, ce que je veux te dire, c'est que c'est du 50-50. Je ne dis pas que tout ce qu'a fait Fernando Santos est bien, mais je ne dis pas il faut dire il y a un méchant d'un côté et un bon de l'autre. Je pense que les deux ont mal géré.
Noël vient d'expliquer là à tout le monde que peut-être il aurait dû le prévenir avant, surtout s'ils sont amis et tout, en disant t'as 35 ans.
T'as du mal à prévenir CR7, je te le dis.
Je sais pas, je te le dis. Il parlait de Messi et tout. Oui, mais t'engueulais avec lui, j'en sais rien, mais peut-être il aurait
pu.
Moi, je me rappelle juste d'un truc, effectivement.
Comment il est,
tu sais très bien. Résultat du match.
Les deux se sont loupés.
Pour le Portugal. Aujourd'hui, le sélectionneur qui avait une génération dorée qui arrivait.
Exactement.
Eh ben, il n'est plus sélectionneur.
Voilà.
Ronaldo, sa carrière a fini en rose bouda avec l'équipe nationale. Exactement. Alors que si tu l'avais mis titulaire contre la Suisse, qui te dit qu'il ne te le mettait pas les trois buts lui aussi? Et si tu l'avais mis titulaire contre le Maroc, peut-être tu serais passé.
Non, mais ce n'est pas la question de savoir s'il l'a mis titulaire.
Laisse-moi finir, Stéphane, tu vas voir. Laisse-moi finir, tu vas voir où je vais en venir. Et si jamais tu avais une déconvenue ou contre la Suisse ou contre le Maroc, toi, tu avais fait ton boulot en tant qu'entraîneur, tu avais respecté ta star, tu l'avais mis titulaire et tu avais l'excuse toute faite.
Ouais, t'as l'excuse toute faite, mais si tu te fais sortir par la Suisse en huitième, t'es mal. Moi, je pense pas que la question elle soit là. Moi, j'étais plutôt contre le fait que Ronaldo soit titulaire, mais c'est le problème, il est pas là. Le problème, il est simplement que moi, je me fie exactement à ce que t'as très bien expliqué, Noël, que c'est un problème de communication. C'est-à-dire le type, il vient jouer, il est capitaine depuis je sais pas combien de temps. On peut dire peut-être que Ronaldo a même fait aussi un petit peu Fernando Santos. Il a réussi, il a été jusque là avec des bons résultats. Et tout ça, c'est aussi beaucoup, je pense, grâce à Ronaldo, et que là, il lui fait un coup de travail, parce que peut-être, on ne sait pas, et peut-être qu'il sentait le coup, le fait de sortir à 20 minutes de la fin, c'était pas que pour lui imposer. Souvent, tu vois le mec, même tu dis avant, ils en parlent, il sort, il le prend par le bras, il lui dit oui, j'ai besoin de toi en huitième, je préfère te reposer. Ça y est, peut-être Ronaldo, il dit rien, et puis voilà. Moi, personnellement, je dis pas ça particulièrement pour le défendre. Peut-être l'équipe a été meilleure sans lui. Maintenant, effectivement, comme tu le dis. Moi, j'avais dit deux choses avant le début de la Coupe du Monde. Je te rappelle, ce que j'avais dit. J'avais dit le Portugal, j'en fais un de mes favoris. C'est, je pense, sur le papier, après le Brésil, l'équipe qui a le plus d'individualité, qui a la meilleure équipe. Ouais. Maintenant, tout dépendra de la gestion de Cristiano Ronaldo. Avec ou sans, je donnais même pas mon avis, mais tout dépendra de la gestion de Cristiano Ronaldo. Voilà.
Très bien, on va vous libérer, Noël. On est très bavard, on a plein de choses à dire.
C'est un bonheur d'être avec vous, les
gars.
De même. C'est pertinent, il y a de l'enthousiasme, il y a de la passion, c'est bien.
Bon, on ne se quitte pas, puisqu'on se retrouve mercredi, pour ce match important.
On se retrouve mercredi avant le match.
Un match commenté par Abou, qui est au repos aujourd'hui, et Eladji, donc en pleine forme.
Notre équipe de choc.
Voilà. J'éteins le son à la télé et j'écoute.
Ah, ouais. C'est gentil. Allez.
Starkey Hutch du foot.
Ouais. La deuxième pause musicale, Black Puma, Sitting On, et puis on se retrouve ensuite pour la fin de cette émission.
Sitting in the morning sun, and I'll be sitting when the evening come, watching the ships rolling. Just to watch them roll away again. Now I'm just gonna sit on a dock of bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just gonna sit on a dock of bay, yet I'm wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I got nothing to live for. Looks like nothing's gonna come my way. I'm just gonna sit on the dock of bay,
watching the tide roll away. Yeah, I'm just gonna sit on the dock of the bay, and I'm wasting time, my. Looks like nothing's gonna change, 'cause everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I remain the same. I'm just gonna sit here resting my bones till this loneliness leaves me alone. Leave me be. 2,000 miles I roam just to make this dark my home. Now I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide, yeah, roll away. Ooh, now I'm just gonna sit on the dock of the bay, yet I'm wasting time. Bye.
Oui, cette émission, vous pourrez naturellement la réécouter en podcast, donc comme toutes les émissions depuis le début de la saison. Il y a beaucoup de passion dans le studio, donc c'est bien. Voilà, on va maintenant écouter quand même les séries du sport, les prix nationaux du fair play. Hein, donc, et puis on va aussi revenir, Valentin, sur les résultats de nos clubs.
C'est hein, ça, exactement. Ouais. Ouais. Ouais, après cette folie qui a envahi le studio.
Hein, oui, c'est bien, c'est la passion, c'est ça le foot.
Hein. D'ailleurs, je veux juste revenir sur ce qu'a dit Eric deux secondes. Ouais. Y a Ebola qui a sorti un sondage et 93% du pays veut que Fernando Santos soit exclu de la sélection. Oui. Donc bon, ce pays est par en vrille. Donc voilà.
Ouais. D'accord. On me fera signe quand les interviews seront prêtes, c'est bon ? On y va pour les prix nationaux du fair play. Donc, c'est une cérémonie à laquelle on se rend tous les ans. Donc, c'était au lendemain du France-Tunisie qu'on avait perdu 1-0. Et puis, c'est une cérémonie annuelle qui récompense tous ceux qui, de par leur acte de fair play, portent haut les valeurs du sport, qu'on soit amateur ou sportif de haut niveau. Alors, on va écouter quelqu'un. Tiens, ça va t'intéresser.
Et tout sport confondu.
Oui, tout sport confondu. Richard Dacoury.
J'adore. Hein,
une icône du sport français. Il avait gagné la Ligue des Champions quelques semaines avant la Ligue des Champions de Marseille en foot. On écoute donc Richard Dacoury et vous allez voir que son prix du fair play, ça le touche presque autant que son titre gagné avec Limoges comme champion d'Europe. Richard, un prix national du fair play qui vous honore.
Ah, vous ne pouvez pas savoir à quel point il m'honore, c'est quelque chose qui représente beaucoup pour moi, le fair play et toutes les valeurs du sport. C'est quelque chose qui m'a nourri et qui a permis de m'épanouir en tant qu'homme. Et je suis vraiment très très heureux et très fier d'avoir été reconnu aujourd'hui.
Oui, c'est pas plus fort qu'un titre de champion d'Europe quand même.
C'est autre chose, oui. Mais pour moi, ça il sera à la même place que sur mon étagère à trophées. C'est quelque chose d'important qu'il ne faut surtout pas sous-évaluer. Aujourd'hui dans la société, je veux dire, il y a trop d'incivilité, trop de violence et c'est ce genre de message qu'il faut continuer à communiquer aux plus jeunes. Il faut que les choses changent, il faut retrouver un peu les valeurs qui ont permis de mieux vivre ensemble, pardon, et ces démarches-là en font partie.
Et c'est vrai que les sportifs de haut niveau et les anciens sportifs y contribuent, hein, ils ont un rôle très important, ils s'impliquent dans beaucoup d'associations.
Oui, l'exemplarité, vous savez, ça a toujours été quelque chose qu'on m'a inculqué tout au long de ma carrière, on a des responsabilités et c'est vrai qu'une fois que la carrière est terminée, je dirais qu'elle n'est toujours pas terminée, on a toujours cette image qui nous permet d'avoir un accès direct, d'avoir qu'on ait hâte d'être écouté et entendu par les plus jeunes. Et ça, il faut surtout absolument continuer à en profiter dans le bon sens, bien sûr.
Alors, il y a le Richard aussi, consultant de basket, qui suit les grands matchs. On a quand même une chance énorme, c'est que les sports collectifs français fonctionnent remarquablement bien.
Oui, le sport français, le sport co-français est en très très bonne forme. On a très très belles écoles de formation, que ce soit dans les pôles, à l'INSEP ou ailleurs. Donc c'est vrai qu'on a la chance, en tout cas dans le basket, d'avoir des générations qui sont de plus en plus performantes. Et j'aurais adoré vivre cette époque parce que ils rayonnent, ces petits jeunes, ils ont plein de talents et j'espère qu'ils vont porter très haut les couleurs du sport français.
Et puis Paris 2024 qui arrive, on a tous envie d'avoir cette fête, hein. On est tous impatients de la connaître.
Oui, moi j'ai vécu les Jeux en tant qu'athlète et en tant que consultant et c'est vrai que pour moi ça a toujours été une fête. Et je suis tellement heureux que cette fête-là, on puisse la partager avec les Français et le reste du monde, oui. En France, à Paris.
Vous allez vous investir, Richard ?
Moi, je vais m'investir, mais de l'autre côté de la barrière, oui. Côté annonceur, avec un partenaire et avec toujours la même ferveur et toujours la même envie.
Très bien. Merci en tout cas.
Merci.
Voilà, merci à Richard Dacoury. C'est un grand monsieur. Hein.
Ah ouais, quand j'étais dans mon côté de à peu près 20-25 ans, je crois, dans ces eaux-là, il m'a vraiment fait aimer le basket avec le CSP Limoges qui était en haut de l'affiche à cette époque-là, qui était vraiment le grand club en France au niveau pro. Et franchement, c'était un super joueur. J'adorais.
C'est voilà. premier titre d'un sport co. Français.
Oui, hein, oui. Juste avant Marseille, quelques semaines avant Marseille. Ouais. Ils ont gagné donc la Ligue des Champions, puis Marseille en foot l'a gagné quelques semaines après. Alors, deuxième lauréat qui n'était pas présent, hein, c'est Romain Bardet. Il avait été récompensé pour s'être arrêté dans Liège, Bastogne-Liège, pour avoir lorsque Julien Alaphilippe est tombé et qu'il a sacrifié ses chances de victoire, Bardet, pour justement donc aller au secours de son coéquipier. Il n'était pas là, mais qui mieux que celui qui, pendant 40 ans, a animé le Tour de France, pouvait en parler. C'est Daniel Mangias qui est aussi le monsieur loyal de cette cérémonie. Allez, avec Daniel Mangias, une des grandes voix du Tour de France. Daniel, d'abord, toujours présent à cette cérémonie des fair-play.
Oui, bah, j'aime bien parce que le fair-play, c'est dans le sport, c'est dans la vie également. Donc je crois que c'est une bonne leçon de vie.
Alors, on a honoré un immense champion aujourd'hui, c'est Romain Bardet. Vous pouvez nous en parler un peu plus parce qu'il a sacrifié une course pour un de ses potes.
Voilà, Romain Bardet, d'autant plus qu'il brille dans les Ardennaises, que ce soit la Flèche Wallonne ou Liège-Bastogne-Liège. Il n'a pas hésité un seul instant lorsque Julien est tombé, qu'il l'a vu dans le ravin. Et il a pu penser à la course, il a pensé à la santé de ce coureur qui n'était pas son coéquipier, qui est un adversaire. Mais je pense que c'est l'homme qui a pris le pas par rapport au champion et c'est très très bien. Ça ne m'étonne pas de Romain, c'est tout à fait dans le style du personnage.
Oui, et puis Daniel, on a une génération de cyclistes actuellement qui sont certes de grands coureurs, mais aussi des coureurs très humains. On le voit, hein, y a une bagarre, mais on serre la main.
Voilà, absolument. On est adversaire, mais on n'est pas ennemi. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a toujours un respect dans le sport cycliste. On le voit souvent quand un coureur est battu par un autre. Premier geste, il va taper sur son épaule en lui disant « Bravo, tu m'as battu ». Et c'est vrai que Romain Bardet représente tout à fait ce qu'est le fair play. Je ne suis pas surpris de ce qu'il ait réalisé. Il mène une belle carrière et cette récompense, il la mérite pleinement.
Et puis, on a eu une belle saison de vélo, hein, de belles courses.
Oui, une belle génération de Français. On n'est pas loin de la victoire dans le Tour. On attend toujours, depuis 1985, la dernière victoire de Bernard Hinault. Romain Bardet fait partie de ses acteurs majeurs. Il a fait 2 et 3 du Tour. Il en a été le meilleur grimpeur. Il a été vice-champion du monde. Il y a des jeunes qui arrivent, comme David Gaudu, Valentin Madouas, qui a de belles qualités également. Et puis, il y a Julien qui va revenir. Il va quand même pas avoir en 2023 une malchance similaire à celle de 2022. Donc, on a un bon cyclisme français. Et puis, il y a déjà les jeunes de 22-23 ans qui poussent aux fesses des autres. Donc, c'est évidemment dans le match, dans la compétition, que naît la motivation.
Comment vous arrivez maintenant à suivre le Tour de France ? Ça ne doit pas être facile quand même, vous qui pendant des années et des années, hein, 40 années, l'avez couvert.
Oui, bah, je continue, j'arrêtais le Tour, le Dauphiné, Paris-Nice, mais je continue tout le reste. Donc, comme j'enchaîne dès la fin du Tour avec les critériums, donc je suis opérationnel, je regarde toutes les étapes, je fais mon propre commentaire, je m'intéresse. Mais pour moi, le vélo est une telle passion que je prends autant de plaisir à regarder une course cadet ou ce qu'on appelait jadis une 3 et 4 que la plus grande course du monde. Pour moi, le vélo, c'est un parfum dont je ne peux me passer.
Très bien. Merci Daniel.
Merci.
À tout à l'heure. Voilà pour Daniel Manjas, hein, la grande voix du Tour de France. On va finir avec quelqu'un que vous connaissez bien, mais c'est aussi un fidèle de ces prix nationaux du fair play. C'est Bruno Dorien. Il y a un prix de l'arbitrage. Bruno Dorien, il est toujours là. Il en avait été récompensé. C'est lui maintenant qui est un petit peu le parrain. C'était au lendemain de France-Tunisie. Écoutez ce que nous avait dit donc Bruno Dorien. Allez, je suis avec un fidèle des prix du fair play, Bruno Dorien. Bruno, toujours fidèle à ces prix du fair play d'abord.
Ah oui, j'y viens depuis plusieurs années, et d'autant plus que je remets donc tous les ans un prix qui porte mon nom. Donc je suis bien sûr très heureux d'y venir.
Oui, alors c'est une reconnaissance aussi sur l'arbitrage. On sait qu'être arbitre de nos jours, quel que soit le sport, c'est difficile.
Certes, c'est une fonction difficile, qui est de moins en moins respectée, qui pourtant est extrêmement respectable. Parce qu'il faut quand même rappeler que même si l'arbitrage... Le sport n'a pas été inventé pour les arbitres. Il ne peut y avoir de sport sans arbitre. Et donc, ça, il faut le rappeler sans cesse. Et trop souvent, l'arbitre est désigné comme le bouc émissaire des défaites. C'est vrai qu'on gagne toujours sur ses propres mérites et on perd toujours par la faute des autres. Et ça évite à beaucoup une propre autocritique, vous voyez ? Donc voilà, donc moi, j'ai toujours à cœur de mettre en avant cette fonction d'arbitre que j'ai exercé pendant 27 ans sur les terrains de football, où j'y ai passé de grands moments, des moments plus compliqués. Mais au terme d'une carrière, on retient que les bons moments et on oublie les sales quarts d'heure. Vous savez, on rentre en arbitrage un peu comme on rentre en religion, si j'ai envie de dire. C'est quelque part un peu le même chemin. Mais on peut... Et c'est pour ça que je voulais lancer un appel aux jeunes. Si on a des capacités physiques ou footballistiques ou dans notre sport un peu moyenne, on peut se lancer dans l'arbitrage et vivre de grandes émotions. D'ailleurs, il y avait un sponsor des arbitres de football qui disait « On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. » Je pense qu'il résumait bien les choses. Donc on peut être heureux en étant arbitre de quel que sport que ce soit.
Et c'est plus dur aujourd'hui parce qu'on a un monde difficile aujourd'hui qui est violent quand même.
Oui, mais déjà à mon époque, c'était pas facile. Moi, je vous rappelais quand même que dans ma carrière, j'étais agressé deux fois dans les années 80 quand j'étais jeune arbitre en Bretagne. Une fois, le père d'un joueur m'a asséné un coup de tête parce que j'avais expulsé son fils. Il n'était pas content. Et une autre fois, j'étais arbitre bénévole pour mon club. Et à l'époque, les arbitres assistants les appelaient des juges de touche au football. Ils n'avaient peu de pouvoir. En tout cas, ils ne pouvaient pas signaler une faute d'un défenseur dans sa surface. Donc, ils ne pouvaient pas signaler un pénalty à l'arbitre. Il y avait eu un contact dans la surface. L'attaquant était mécontent parce que l'arbitre n'avait pas sifflé. Il est venu vers moi. Il m'a donné un coup de genou dans le ventre. Vous voyez, la violence, malheureusement, elle a toujours existé. Alors, on en parlait peut-être moins il y a 20, 30 ans. Aujourd'hui, on en parle beaucoup et c'est tant mieux. Il y a les réseaux sociaux, il y a une plus grande... Voilà, les choses ont changé. Et puis, il y a la loi Lamour maintenant aussi qui consacre aux arbitres une mission de service public. Il faut savoir que ceux qui s'attaquent physiquement aux arbitres voient leur peine aggravée, au même titre que quand s'en prend à un policier, un gendarme ou un professeur.
Est-ce que la VAR a beaucoup aidé quand même les arbitres professionnels ? Ça corrige quand même ce qu'on appelait des injustices.
Oui, alors moi je suis un peu circonspect. Oui. Et pourtant j'avais écrit il y a 10 ans un bouquin SOS Arbitre, SOS Vidéo. Je faisais du constat à partir du moment où on ne reconnaît plus à l'arbitre le droit à l'erreur. Parce que ça reste une activité humaine. Un entraîneur peut se tromper dans la composition de son équipe, dans les choix stratégiques d'un match. Un président aussi peut faire des mauvais choix dans la gestion de son équipe. Un arbitre peut prendre une mauvaise décision. Il faut savoir qu'un arbitre prend des dizaines de décisions par match. Il peut arriver qu'une ou deux soient erronées. Sauf que tout de suite, on crie au scandale. Donc à partir de là, à partir du moment qu'on ne reconnaît plus le droit à l'erreur à l'arbitre, il fallait trouver un moyen pour venir assister l'arbitre à prendre la bonne décision. Avec le recul, alors certes, les grosses polémiques, les erreurs manifestes sont corrigées par les VAR, on est bien d'accord, mais il y a beaucoup de situations de jeu où c'est ni noir ni blanc, c'est gris. Et au final, c'est une question d'interprétation. Alors, sauf pour ceux qui sont devant l'écran dans le centre VAR, ou l'arbitre qui se déplace, il y a des situations où on mettrait 10 arbitres face à une image, je ne suis pas sûr qu'il y ait une décision unanime. Et tant mieux, parce que c'est ça, là. Le sel aussi de l'arbitrage, c'est interpréter. C'est avoir chacun son propre jugement.
En tout cas, on a un mondial de foot actuellement. L'arbitrage français est reconnu à son juste titre avec deux arbitres. Oui. Françaises et français.
Il y a deux arbitres. Il y en a Clément Turpin qui a déjà fait un match. Et aujourd'hui, cet après-midi, ce soir d'ailleurs, Allemagne-Costa Rica, l'arbitre femme Stéphanie Frappard va arbitrer pour la première fois un match en Coupe du Monde. Je crois que c'est la première femme de l'histoire de la Coupe du Monde à diriger un match du tournoi final de la Coupe du Monde. Il faut le saluer.
Il n'y a pas de grosse polémique sur l'arbitrage chaud.
Il y a eu hier soir. Attendons le résultat de la FIFA parce que la fédération a porté une réclamation. Non, il n'y a pas de polémique. Il faut aussi reconnaître que l'état d'esprit sur le terrain est bon. Il y a eu, je crois, très peu de cartons rouges. Je crois qu'il n'y en a eu qu'un, souvenirs sont bons. Et donc, je me souviens, il y a 30 ans, les matchs étaient beaucoup plus engagés. Il y avait beaucoup plus de cartons que cela. Donc voilà, à partir du moment où les joueurs font attention, se respectent, ça facilite aussi la tâche de l'arbitre.
Bon. Il vous plaît ce mondial, Bruno, pour l'instant ?
Voilà, je le suis pour une télévision africaine qui s'appelle New Work Sport.
Christian Jean-Pierre.
Togolaise avec Christian Jean-Pierre. Et j'y vais régulièrement. Oui, bah, je suis les matchs. Alors c'est vrai que c'est particulier parce que d'habitude, la Coupe du Monde est toujours en juin, en juillet. Là, on est en plein hiver. Bon, voilà, il faut s'acclimater. Mais je crois qu'on voit de beaux matchs. Moi, j'ai beaucoup aimé France-Danemark. On a vu l'Argentine hier aussi qui a bien joué. Donc voilà. Ça monte en puissance.
Merci Bruno en tout cas.
Merci.
Voilà pour Bruno Derien, un petit commentaire. Valentin, je vous ai tout vu très très dissipé là, c'était, très passionné.
C'était, non, c'était en train de débattre justement. De la VAR et du
éternel problème.
Voilà, moi je trouve que ça, à l'époque, il n'y avait pas de VAR. Je suis content que la VAR soit quand même dans le football aujourd'hui, parce qu'on attaque moins les arbitres sur ça quand même, parce que bah c'était quand même, comme il le dit bien, dès qu'il y avait une erreur, c'était, dès qu'on perdait, c'était l'arbitrage qui était en tort. On en parlait justement là avec la remontada, s'il y a la VAR, il n'y a pas la remontada, c'est cela. Mais c'est ce qui permet de créer ces histoires du football. Que
la si légende du football.
Si on est l'équipe adverse, on n'est pas content. Ouais. Si on est le PSG, bien sûr qu'on n'est pas content. Mais le FC Barcelone, non. Les fans de Messi, les fans de Barça et même les fans du football, je suis désolé.
Non, alors là, je suis désolé.
Le scénario est unique.
Je suis intransigeant là-dessus. Ouais. Les fans du football, ils pleurent, qu'ils soient espagnols, français, n'importe quoi, quand ils voient un match comme Barcelone-PSG, par exemple, ils pleurent. On en parle parce que Valentin, je sais qu'il a dit la même chose, une phrase qu'il n'a pas redit là, mais qui est célèbre de Bruno Derien. Il n'y a pas de sport sans injustice. L'injustice, ça donne un peu du piment au sport. Il a dit ça dans le passé. C'est vrai qu'on disait que moi, d'un point de vue personnel, j'étais complètement contre ça. Moi, je regarde un match, je suis plutôt supporter du Paris Saint-Germain. Je regarde un match Paris Saint-Germain-Marseille. Je vois Neymar mettre un but de la main. Franchement, ça me gêne, ça m'embête,
aussi,
quoi. Ça me gêne. Et on a vu d'ailleurs en France, il y a quand même toute une polémique quand il y a eu le fameux France-Irlande avec cette main de Thierry Henry qui ramène le ballon pour Gallas qui marque le but. Il y a quand même eu derrière des pétitions, des choses comme ça. Ça a gêné beaucoup de monde. Et heureusement, et moi aussi, ça c'est quelque chose qui m'a gêné. À l'époque, c'était le règlement, donc j'étais absolument contre demander à rejouer le match ou une chose comme ça. Parce que on a profité du règlement. Il y a eu d'autres erreurs avant, donc il n'y a pas de raison de payer, mais c'est quand même incroyable. La main de Maradona, je sais pas ce qu'il y a, il y a plein de choses comme ça, les injustices.
Sport, l'année dernière encore, Lewis Hamilton, Max Verstappen, lois de la FIA, ils doivent pas relancer la course. Ils font relancer la course. Je suis désolé, je suis pas un fan de Lewis, je suis pas un fan de Max Verstappen, je suis un fan de personne en Formule 1, je suis un fan du.
T'es journaliste,
voilà,
tu
c'est ça, de la course automobile. C'est incroyable le scénario. D'ailleurs, c'est l'anniversaire aujourd'hui de cette course. Mm-hmm. C'est mythique, ça rentre dans l'histoire du sport et c'est mythique.
Bah, moi je suis assez parti.
Non, juste après, on
alors, non, mais très rapidement, j'étais pour l'introduction de la VAR. Aujourd'hui, je la regrette un peu parce que pour moi, en fait, le football, c'est un ensemble de petits détails. Et pour moi, qu'on utilise la VAR que pour certaines situations, c'est problématique. Pourquoi ? Parce que, en fait, entre un corner et un 6 mètres, ça n'a rien à voir et c'est des détails importants dans un match. Et on n'intervient pas avec la VAR. Il y a plein de moments dans un match qui peuvent être des moments clés qui ne rentre pas en compte dans la VAR. Et c'est là le problème de la VAR pour moi, en tout cas.
Je suis d'accord avec toi. On invitera M. Derien, il viendra en parler. Voilà, comme ça, on lui posera toutes les questions sur l'arbitrage. Allez, on finit avec donc encore quelques petites infos hors Coupe du Monde. Le National, le Paris Atlético, qui a cartonné devant Borgo 4-0, hein, alors que le Red Star et Versailles ont partagé les points 0-0. Pour l'instant, donc, ce soir, il y a Marti-Concarneau à partir de 21h. L'équipe de Concarneau qui est en tête de ce championnat avec 29 points, devant Versailles et le Red Star, donc 26 points. deuxième Versailles, 26 points. Troisième, Restart Dunkerque, 25. Et le Paris Atlético est 15e avec 16 points, devançant donc 16e le Puy, 14. Et donc 17e, Saint-Brieuc et Borgo, 10 points. C'était le dernier, Borgo. Hein,
c'est ça, c'était une victoire. Logique, mais avec le Paris Atlético cette saison, c'est un peu compliqué. Même, hein. Oui, ils ont enfin trouvé les chemins du filet, c'est bien.
On parlait souvent qu'il manquait de.
Oui, mais après, face au dernier quand même du championnat, il fallait faire ça. Fallait au moins sauver l'honneur et mettre un beau score. Alors, et c'est vrai que c'est fait par le Paris Atlético.
Il y a le derby, c'est jeudi 15 décembre, il y a le derby à Jean-Bouin, Versailles, Paris Atlético, messieurs.
Là.
Ouais, à partir de
19h30. Moi aussi. Un match nul, Versailles bien.
Allez, une nouvelle qui va faire plaisir à notre ami Eric. 11e journée du championnat de féminine. Eric, victoire du Paris Saint-Germain à Lyon 1-0.
Yes, ouais. J'ai regardé le match hier, c'était extraordinaire. Alors, le final était top ici.
Dans le même temps, le Paris FC est allé gagner à Soyo 6-0. Donc le PSG, du coup, est en tête.
Et
29 points.
On reprend la tête.
Un bon hold-up. Quand on aime bien le PSG, on est particulièrement content. Un bon hold-up, mais un match, moi aussi j'ai regardé Eric, et vraiment un match très très sérieux des joueurs du PSG avec Sarah Abouadi qui revenait
Donc PSG 29 points en tête devant Lyon, deuxième 28, troisième Paris FC 21.
Là il va falloir tenir. Avec Lyon, il y a juste une seule chose à faire maintenant, c'est parce qu'on connaît Lyon et je l'ai dit déjà et on en a discuté avec Julien sur une autre émission. Lyon, ils ont l'expérience, ils ont tout et c'est une autoroute. Ils sont faits pour ça et bravo à tout ce qu'ils ont fait. Et là, on a juste une chose à faire, on a réussi à passer devant, donc on a juste à gagner tous nos matchs.
Voilà,
c'est tout.
Et ça a été une bonne semaine pour les filles du PSG puisqu'elles ont aussi gagné en Ligue des Champions 4-0 devant Skoder. Du coup, elles remontent un peu au classement, c'est Chelsea qui est en tête avec 10 points devant donc les filles du PSG 7 points, 3e Real Madrid 5 points et 4e Skoder 0 points. Et puis Lyon aussi a cartonné, ils ont écrasé le FC Zurich 4-0. Victoire donc de Lyon qui en fait que ils sont 2e avec 7 points, à 3 points d'Arsenal qui est en tête 10 points, 3e la Juventus de Turin 5 points et 4e Zurich 0 points. Ça n'avait pas très bien commencé pour Lyon, ça va beaucoup mieux.
Ça a retrouvé l'équilibre des choses. On sait que Lyon a encore quelques années d'avance sur le football féminin français, mais là c'est encourageant que le PSG et que Lyon fassent quand même des très beaux scores en Ligue des Champions. Et puis même là le match, moi j'ai regardé la deuxième mi-temps, c'est vrai que c'était quand même du beau football et ça fait plaisir.
Attention aux Anglais, on le voit en Ligue des Champions, ils ont compris.
Ola
ça a pris beaucoup d'avance et parce que ça a été le premier président de club qui a mis beaucoup d'argent dans le foot, quoi qu'il en dise. Quand
il a fait ça bien aussi.
C'était le PSG masculin, il était chez les filles, ce que le Paris Saint-Germain est chez les hommes. Il avait vraiment tous les meilleurs. Maintenant, les Anglais, le football se développe. On a vu les Espagnols, je crois que c'est Barcelone qui a gagné la Ligue des Champions.
Et puis Alex Putellas, la Ballon d'Or et tout.
Qui reviennent. Et les Anglais mettent de l'argent sur le foot féminin. Les gros clubs anglais, Chelsea, Arsenal,
une belle équipe.
Des gros clubs anglais et ils sont ils vont venir fort.
Allez.
Moi je suis pas encore rassuré par rapport à Lyon parce que ils ont affronté l'équipe la plus faible du groupe aller-retour. Et Arsenal, comme on a dit, est très très bon. Et la Juve a fait match nul à l'aller contre Lyon. Et c'est la première saison où je doute un peu de cette équipe lyonnaise.
On est à mi-compétition.
Il reste du temps, effectivement, mais il y a un petit doute qui s'est installé avec quelques contre-performances.
Bon, on parle basket ?
On parle basket. Hein ?
Après Richard Dacoury. Donc Villeurbanne qui a écrasé le Paris. Basket, 94-60. Boulogne-Levallois battu par Monaco, 95-82 après prolongation. Et puis Eric, je suis désolé, Nanterre battu aussi donc par Bourg-en-Bresse, 85-84. Monaco est en tête, 84,6. Devant Boulogne-Levallois, Dijon et Soleil, 75%. Nanterre est dans le ventre mou, à la 9e place.
La
9e à la 14e avec 41,7 points. Et puis le Paris Basket est juste derrière, 15e, 33,33 points.
Le Paris Basket, il n'y a pas eu match face à Villeurbanne. Ils avaient 27 points de retard à la mi-temps. Ça a déroulé. Lyon, Encore une fois, Lyon, Villeurbanne, on ne va pas se mentir.
Oui,
Lyon,
oui. C'est une démonstration, quand même, hein, c'est un club mythique dans le basket.
Mais il y a une performance aussi de Monaco face à Boulogne qui est quand même exceptionnelle. Ils reviennent de loin dans le match et aller jusqu'en prolongation et battre Boulogne qui, encore une fois, ont le MVP cette saison parce qu'il a 26,9 points de moyenne devant une tonne de joueurs, Victor Wembanyama. Donc il n'y a pas débat, il n'y a pas match. Mais ouais, c'est vrai que c'est un très très gros match. Mais Paris Basket, un petit peu décevant. Surtout qu'avec Monaco, encore une fois, à Roland-Garros, ils avaient fait une bonne performance face au gros. Face au Mans, qui était deuxième, ils avaient réussi quand même à se maintenir. Et là,
ils se maintiennent pour l'instant.
Ils se maintiennent, mais c'est.
Hein, sur 18 clubs, ils sont 15e.
Paris Atletico gagne, le Paris Basket perd. Ah, voilà, ils s'échangent les trucs. Ah, c'est comme
justement,
ça.
Valentin, pour le trio, le trio, moi, je sais pas, je vois sur ce trio pour la gang à la fin entre Monaco, Villeurbanne et Levallois, je pense que c'est un peu les trois.
Moi, je suis impatient de voir les playoffs, de voir qui va se retrouver en finale, parce que l'année dernière, c'était Villeurbanne qui a été d'ailleurs champion de France face à Monaco. D'ailleurs, Monaco revient très bien et développe de plus en plus son basket, et là c'est vrai que Monaco c'est quand même une grosse victoire face à Boulogne, il faut quand même le souligner. C'est très fort.
Allez, ça a au moins gagné aussi au volet, hein, 3-0. Après le Paris Atletico, effectivement, 12e journée, Paris qui bat 7-3-0, Plessis Robinson qui bat Toulouse 3-2, donc Tours est clairement en tête avec 29 points, Paris est 8e, donc en milieu de tableau, hein, donc avec 16 points, et 10e Plessis Robinson 12 points sur un championnat donc à 14 équipes. Il y a d'ailleurs un autre derby aussi, c'est Plessis Robinson Paris, ça sera le 30 décembre pendant les fêtes.
C'est ça, mais 3e victoire d'affilée pour le Paris volet, et puis encore une fois, un gros match bien maîtrisé, 25-16, 25-23 et 25-17. Donc vraiment, ils ont été performants, ils ont été présents, et 3-0, il n'y a pas d'appel. C'est magnifique.
Très bien. Merci Valentin.
Merci à toi.
À la semaine prochaine.
Je serai là mercredi. Quand même.
Génial, Eric, mercredi aussi ?
À mercredi, je suis là.
Hein, voilà,
mercredi,
très bien.
Je suis là.
Et puis Stéphane, il n'y a pas besoin de lui poser la question. Ouais.
Moi, je suis obligé, hein, même si je veux passer, il vient me chercher.
On appelle la police, tout ça. Je déconne.
Merci
Julien, à la semaine prochaine. Énorme merci à Jason, naturellement.
Comme d'habitude, Jason. Si je peux te faire une petite dédicace juste avant de finir, je voudrais, comme je l'ai dit, faire une dédicace à travers la dédicace que je vais faire à la communauté marocaine vis-à-vis du match de mercredi. On a nos amis du Paris Showgame, où on a deux Marocains à l'intérieur, et donc c'est à l'intérieur tendu sur le côté du match, et donc voilà, Driss et toute la famille, Ezekiel et Yael, voilà. Et puis de l'autre côté Soso, pour voilà, et juste une petite dernière dédicace. Aujourd'hui, on est écouté aux États-Unis, puisqu'il y a Julien du Paris Showgame qui nous écoute ce soir.
Oh, c'est super.
Et voilà, une dédicace pour lui.
Et puis merci Julien.
Merci à vous, c'est toujours un plaisir.
La semaine prochaine.
Avec plaisir.
Voilà, énorme merci donc à Jason. Et puis on finit avec Gala, Fruit from Desire. C'est naturellement
d'actualité. From Desire.
Ouais, d'ailleurs. C'est la chanson qu'on veut donc entendre
dans deux semaines.
Dimanche soir. Hein.
Ouais, dimanche soir, effectivement.
Dimanche soir. Allez, semaines, bonne soirée à toutes et à tous.
My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. One more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for, one more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for, freed from desire, mind and